Bonjour les amis, bienvenue sur Burger Ring. Burger Ring, le podcast le plus gras et le plus protéiné du game, les amis. Vous connaissez cette intro légendaire depuis le temps. Merci, merci à vous tous pour le cadeau que vous venez de me faire là depuis 3 jours. Je vais m'expliquer de suite sur ce que j'appelle ce cadeau et pourquoi c'est un énorme cadeau. Mais merci, merci à vous de soutenir mon travail. Vous avez joué le jeu. Alors, faut savoir que par rapport à l'année dernière, on va dire à la première saison, même s'il n'y a pas de saison vraiment sur ce podcast, mais avant la grande coupure qu'il y a eu depuis l'hiver dernier, il y a bientôt 10 mois, on a presque doublé les chiffres, pas tout à fait. On était à 4 et quelques millions d'écoutes. Là, on est désormais à 7 millions d'écoutes toutes plateformes confondues, donc Spotify, Apple Podcast. Bon, la majorité d'entre vous êtes sur Spotify, mais il y en a qui écoutent aussi sur Deezer. Et après, toutes les petites plateformes que je connais pas, qui repostent le podcast. Donc en fait, en tout, il y a 7 et quelques millions d'écoutes uniques sur le podcast à chaque épisode, en moyenne, hein, puis c'est une moyenne que j'ai. Donc vraiment, je suis extrêmement, extrêmement heureux que ça vous plaise autant, qu'on se régale ensemble de manière hebdomadaire avec ces petites anecdotes, ces analyses, ces coups de gueule. Enfin, vous connaissez, ça part souvent dans tous les sens, ces délires qu'on se tape. Donc vraiment, merci. Et puis surtout, il faut que je vous remercie chaleureusement pour un autre cadeau que vous m'avez fait. C'est que non seulement vous suivez mon travail, mais une partie d'entre vous a joué le jeu et vous avez fait péter les scores littéralement de nos ventes de BD, puisque vous savez que j'ai sorti Dino Brutal Age, qui d'ailleurs est une BD que j'avais commencé à imaginer à la suite d'un visionnage de merde, d'un film de merde au cinéma. Je crois que c'était octobre ou novembre dernier. Peut-être début novembre ou fin octobre, je me souviens plus, donc il y a presque un an. J'étais allé voir 10 000 La Terre d'Avant, qui était un film vraiment oubliable et absolument merdique. Et je vous avais dit, putain, qu'est-ce que j'aimerais voir une version des années 80-90 de ce film qui pourtant avait un scénario qui aurait pu être génial. Un mec qui s'écrase chez les dinosaures et qui va devoir utiliser des flingues. Voilà. Et donc, ça avait donné lieu à un super podcast, qui est un de ceux aussi qui avait le mieux marché, qui faisait le plus plu. Je crois que c'était un hors-série d'ailleurs. Je sais plus, il faudra que je regarde. Mais je crois que c'était l'épisode 26. Donc, c'est pas un hors-série peut-être. Bon, il faudra que je vois. Pas 26, non, je dis de bêtises. Peut-être le numéro 6, je sais pas. Bon, à voir. Et donc, du coup, c'était l'histoire d'un type qui s'écrasait à l'époque des dinosaures et qui mettait des coups de flingue, sauf que c'était complètement raté parce que c'est le Hollywood sauce post-2000 et non plus le Hollywood magique des années 80-90 avec tous les excès caricaturaux qu'on lui connaît et les personnages hauts en couleur et les idées géniales aussi, il faut le dire, parce que on a souvent tendance à caricaturer cette période, mais en fait, il y avait beaucoup d'audace, il y avait beaucoup de prise de risque. On n'avait pas des franchises comme ça qui faisaient 20, 30, 40 films en tirant la ficelle jusqu'au bout du bout, quoi. Aujourd'hui, c'est le cas typiquement de Marvel. Putain, mais aujourd'hui, à part les demeurés, qui en a quelque chose à foutre des films Marvel, quoi. Alors, évidemment, il y a des gens qui ont tout suivi, qui vont le regarder, qui sont pas forcément des demeurés. Là, j'exagère quand je dis ça. Mais on va dire que franchement, putain, aller passer un bon moment devant un film Marvel maintenant, c'est très 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 compliqué quand même, parce que putain, ça y est, quoi, on les a vus tous, hein. Thor, Captain America, ça y est, quoi, on les connaît par cœur. Donc très 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 compliqué. Là, je vois qu'ils vont faire un énième Spider-Man, on en a eu 250. Enfin, c'est un peu comme à l'époque du western, tout ça est en train de mourir gentiment, parce que ça vraiment maintenant c'est du film au kilomètre, avec des trucs, une nomenclature et tout, et puis il n'y a plus beaucoup de films d'audace, et quand les films ont un peu d'audace scénaristiquement, comme c'était le cas avec 10 000 La Terre d'Avant, c'est raté, parce qu'on est dans une époque de merde, tout est devenu très très gay, donc du coup on n'a plus la testo qu'il y avait dans ces films. Bon, j'ai consacré beaucoup de podcasts là-dessus, donc je ne vais pas vous refaire le schmilblick, mais vous le savez, c'est quelque chose qui me tenait à cœur, et n'ayant pas eu le film que j'avais envie d'aller voir, qui pourtant avait un pitch génial avec des dinosaures qui se font exploser au fusil d'assaut. On l'a fait en BD. Voilà, c'était parti de critique de ce film. J'avais dit, putain, il faudrait que je fasse une BD pour qu'un jour ça puisse servir à un réalisateur. Le jour où on aura changé de paradigme, que ça puisse servir à un réalisateur pour faire, pour faire un film d'action et qu'on revienne aux bonnes vieilles bases du cinéma américain des années 80-90. Donc voilà, et le projet vous a plu, vous avez été nombreux à me dire « allez, on y va ». Je vous avais demandé voilà, à quoi vous vouliez que ressemble le personnage principal, donc ça va être un truc où vous avez participé, puisque en fait vous m'avez envoyé plein de directions, et au final, c'est rigolo parce qu'on a fait une synthèse. Le personnage de Dino Brutal Age, c'est donc Hunter McBurney, il s'appelle. Il a, si vous voulez, la coiffure, le haut de la coiffure, c'est Guile. Le bas de la coiffure, c'est Tony Gunn, le boxeur qui apparaît dans Rocky 5. On lui a mis la bouche de Stallone, on lui a mis la mâchoire de Schwarzy, on lui a mis les yeux de Steven Seagal, le nez de, comment il s'appelle, le nez de Kurt Russell. Enfin, on a vraiment fait un mélange de plein de héros de action movie de l'époque. On lui a fait on lui a fait le physique, évidemment. Un mélange entre le physique de Kurt Russell, qui n'était pas un bodybuilder mais qui était assez athlétique et qui avait les jambes très arquées comme ça là, qui avait un peu un physique de plaquiste, avec la masse musculaire d'un Schwarzenegger. Il y a un peu de Dolph Lundgren, enfin vraiment on a fait un amalgame de tous les héros des années 90, et on a fait cette espèce de personnage complètement abruti, d'un racisme sans limite, complètement décomplexé, ultra patriote. Bon, enfin voilà, je vous en dis pas plus, ceux qui ont lu la BD, parce qu'il y en a qui l'ont déjà reçu, savent de quoi je parle. Moi je l'ai lu ce matin, parce que je l'ai reçu ce matin étant en Espagne, je l'ai reçu après ceux qui l'ont eu le jour de la précommande. Donc voilà, je me suis remarré en le lisant. Et en général, c'est très très bon signe, parce que moi, je suis quelqu'un de difficile à faire rigoler. Donc, si je me marre en lisant mes propres trucs, c'est que vraiment, ça fonctionne et que ça va vous régaler. D'ailleurs, les premiers retours que j'ai eus sont dithyrambiques. Les gens se régalent. Donc, vous pouvez pas savoir ce que c'est que d'avoir créé quelque chose, d'avoir mis vraiment de la passion dedans, de s'être cassé le cul, à vraiment mettre des vannes efficaces, à oser des trucs qui risquent aussi de finir à la 17e chambre, parce que il y a vraiment quand même des choses extrêmement gratinées dedans. Alors c'est infernal, parce que on a très peu pu le puber, on vous a juste mis un extrait où il y a des dinosaures qui se font tuer, mais à la limite c'est presque le truc le plus nul de la BD, parce que tout le reste, les dialogues notamment, sont tellement géniaux, les situations sont tellement violentes, les phases, les vannes raciales sont tellement violentes que, si vous voulez, on le met sur Instagram, ça fait sauter mon Instagram, très clairement. Donc je ne pouvais pas communiquer, on ne pouvait pas communiquer sur l'aspect dialogue et tout, alors que c'est vraiment le suc de la BD. C'est une histoire continue, contrairement à ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, on faisait des petites histoires. Là, on a pris le niveau, vous voyez, on a construit les choses aussi petit à petit, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas lancé de manière complètement aveugle dès le début quand on a fait des BD dans des histoires longues, parce que mine de rien il faut du métier pour le faire, c'est un vrai métier, et on s'est chauffé petit à petit avec la FDP, avec expérience de mort imminente. De son côté, Marceau, ben, il a évolué avec ses BD, et là on arrive vraiment avec notre premier produit qui s'apparente vraiment à une BD extrêmement professionnelle, et je suis très très fier, parce que c'est ça le mot en fait. Toutes nos BD étaient drôles, toutes les BD qu'on a fait, elles étaient drôles, elles étaient osées, elles étaient violentes. Mais si vous voulez, quand on a démarré, ben c'est comme tous les gens quand ils démarrent quelque chose, hein, y a des côtés un peu bourrins, c'est moins bien maîtrisé, il y a beaucoup, beaucoup d'énergie, mais c'est moins bien maîtrisé. Là, je suis très, très content, parce qu'on a fait quelque chose de très maîtrisé, je me suis vraiment appliqué pour l'écrire. Hein, et quel plaisir de... Déjà, les métiers créatifs, c'est vraiment super, parce que... Mais c'est un truc d'autiste, en fait. Moi, vous savez... Je peux passer 2 mois à marcher dans la pampa avec Maximus, je ne touche pas le clavier de mon ordinateur. Ok ? Et je réfléchis, et tout d'un coup, mon cerveau, ne me demandait pas pourquoi, il produit de la création, il produit de la créativité, il me fait penser à une histoire. Et là, tout d'un coup, paf, ça se débloque. Je rentre à la maison, je tape sur mon ordi, là, En plus, moi, je travaille sur OpenOffice, j'ai gardé cette habitude de la fac, parce que comme on était à la fac du Mirail, qui est une fac de Clodo, comme j'étais dans une fac de Clodo, on n'avait pas Word, on avait OpenOffice, en fait, parce qu'OpenOffice, c'était gratuit. Donc, du coup, j'ai appris à bosser sur OpenOffice quand j'étais en fac de sociaux. Et du coup, voilà, Word, je bosse jamais dessus. D'ailleurs, c'est très pénible pour mes collaborateurs, parce qu'à chaque fois, ils reçoivent mes textes en OpenOffice, ils pètent des câbles. Mais voilà, je suis un énorme handicapé de l'informatique. J'ai mes petites habitudes, donc je vais sur mon Windows 95. Non, c'est plus Windows 95 depuis 3 ans. C'est Windows 10. Voilà, j'ai mis un petit peu de modernité dans ma vie. Je rentre, et là, paf, ça sort, et les vannes arrivent et tout. Putain, les situations. Des fois, je dois m'arrêter parce que je pleure de rire. Moi, si vous voulez, ce qu'il faut comprendre, vous savez, quand j'étais gosse, Je suis désolé, ça va dans tous les sens, mais c'est l'émotion qui parle. Et vous savez, ces podcasts ne sont pas préparés, c'est de l'impro pur. Quand j'étais gosse, je me rappelle, j'allais au ciné, je vous en ai parlé, hein, mais je vous en reparlais parce que c'est une période absolument magnifique. Puis en plus, je sais que vous aimez ça. Parce que vous aussi, vous êtes des petits nostalgiques. Quand j'étais gosse et que j'allais au cinéma, si vous voulez, les films étaient pas, c'était beaucoup moins des produits aboutis qu'aujourd'hui. Alors ça dépend lesquels, parce que c'est des films qui étaient très 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 aboutis, très travaillés. C'était vraiment des produits marketing, capitalistes et tout. Mais ils avaient intrinsèquement de l'énergie, de la puissance et il faut le dire, de la violence. Voilà, il y avait quand même ça, quoi. Il y avait quand même ça. Et c'est vrai qu'un produit maîtrisé, on peut en faire un, même sans énergie, même sans que les acteurs soient ultra charismatiques, et ça remplira les salles, parce qu'en fait, il y a des millions de keuks qui consomment ce qu'on leur donne, qui n'ont aucun standard, et en fait, vous pouvez leur mettre de la pâté pour chien, ils vont aller la manger, parce qu'en fait, ils ont faim, le ventre, il gargouille, donc ils mangent de la pâté pour chien, et il y en a qui disent non, je n'irai bouffer que quand tu auras du homard en sauce. Voilà. Et donc, du coup, ils bouffent beaucoup moins souvent, mais quand ils bouffent, ils bouffent bien. Ben, dans les années 80-90, le cinéma, c'était du homard en sauce tous les jours, en fait. Voilà. À t'en dégoûter, à t'en faire péter le civet. C'était vraiment quelque chose. Tu allais au cinéma, tu étais très rarement déçu. Les films étaient prenants, ils étaient captivants. En plus, on n'avait pas tout ce phénomène de les écrans qui captent notre attention, qui captent notre énergie. Ou après, moi, je me rappelle quand on rentrait dans le cinéma, mais il y avait presque quelque chose, je mets des guillemets, hein, mais presque de l'ordre de... C'était hypnotique. Moi, je rentrais dans une salle de cinéma, le film passait, et en fait, on consommait tellement moins d'écran qu'en fait, quand on sortait, putain, le cerveau était complètement mobilisé par le film, et on sortait du cinéma, et on n'avait pas vu le temps passer, quoi. On se disait, putain, j'en ai pris plein la gueule, quoi. Moi, je me rappelle quand j'étais allé voir Jurassic Park au cinéma, mais les séances, mais tu sortais, moi, je me rappelle quand j'étais gosse, donc j'étais allé voir Jurassic Park, mon père m'amenait beaucoup au cinéma quand j'étais petit. Et en plus, il était sympa, il m'amenait voir les films que moi j'aimais bien. Donc, on allait voir par exemple Last Action Hero, enfin je vous l'ai raconté ça, on allait voir Jurassic Park. Et je me rappelle que je sortais de ces séances. Putain, je me rappelais plus qu'on était à Toulouse, qu'on était au mois d'août ou de septembre, ou je sais pas quoi, ou de juillet. Tu redécouvrais la chaleur. Tu avais complètement oublié l'espace et le temps. C'est-à-dire que je me rappelais que j'avais... que je m'appelais Hugo, que je vivais à Toulouse et que j'avais 10 ans. Et voilà, c'est vraiment complètement dingue. Il y avait un côté, tu rentres en cinéma et tu avais une expérience cinématographique. Tu ne pensais pas à autre chose. Vous me direz, c'est peut-être lié à mon jeune âge, mais je ne crois pas parce que ça me l'a refait avec Mad Max Fury Road. Quand je suis allé voir Mad Max Fury Road, j'étais déjà un adulte, je bossais. Et le film était tellement bien fait, il était tellement façon 90, même s'il a quelques petits défauts, notamment scénaristiques. C'est vrai que putain, on était aspiré par cette histoire, les personnages sont bien, charismatiques, et d'ailleurs ça prouve qu'on peut avoir un rôle féminin qui déboîte, hein, parce que je rappelle que dans Alien, Ellen Ripley, ben, elle est jouée par Sigourney Weaver, c'est une femme, hein, et pourtant tu ne décolles pas le cul de ton siège, et t'es complètement scotché. Et ce qu'il y a de bien, c'est que c'est pas une femme qui se comporte en homme, c'est vraiment une femme qui est une femme et qui doit se défendre comme une femme, avec ses instincts de femme, contre un alien ultra inquiétant. Et en fait, à cette époque-là, il n'y avait pas de mensonge sur ce qu'est une femme. On ne voulait pas politiser la femme. Donc, on mettait des femmes dans les films qui étaient des femmes et qui réagissaient comme des femmes réagiraient. Et c'est le cas dans Jurassic Park. Vous avez la compagne de Grant, je crois. C'est ça, c'est Alan Grant. Non, oui, c'est Professeur Grant, oui, je crois. C'est bon, je les confonds tous, les personnages, mais c'est pas le vieux. C'est pas des pensées sans compter, je crois. Ouais, c'est Alan Grant, c'est ça. Celui qui est joué par Ian Malcolm. Bon, et en fait, ben, sa gonzesse dedans, elle a peur, plus que les hommes. Il faut la rassurer plus que les hommes, mais elle arrive à sortir les doigts du cul, à faire des trucs complètement exceptionnels. Et on y croit, on se dit, c'est une femme courageuse qui prend sur elle et tout. Donc, si vous voulez, à la limite, paradoxalement, les films des années 90 étaient plus... ils étaient moins sexistes que les films d'aujourd'hui, où on invente des meufs qui se comportent comme des hommes. En fait, est-ce que tu vas au cinéma pour voir des lesbiennes? Si je veux voir des lesbiennes, je me réinscris à l'éducation nationale, option L, d'accord, je vais en première L, et des lesbiennes, je vais en avoir au taquet, tu vois. Si je vais au cinéma, c'est pour voir Stallone mettre des patates à des Mexicains. D'accord? C'est pas pour voir des gonzesses qui ont des allées de club café et qui sont coiffées avec une houppette. D'accord? Parce que moi j'avais ça. Hein. Quand j'étais en première L, ma prof de philo, c'était une énorme lesbienne. D'ailleurs, elle détestait les hommes. Hein. Et d'ailleurs, c'était incroyable. Ouais, je fais encore une digression. Ça, c'était incroyable. Cette gonzesse, bon, elle était pas méchante. Hein. Et c'était vraiment Si les lesbiennes, c'était des abeilles, elle, c'est la reine de la ruche, en fait. Elle fait le miel le plus lesbien de la planète Terre, quoi. C'était vraiment café-clope, dents grises, 130 kilos, un corps de poney. Tu vois, tu cherches la selle, tu la vois, tu cherches la selle, t'as envie de lui filer une pomme. T'as envie de lui caresser le crin, quoi. Tu vois, t'as envie de lui tapoter, là, sur la cuisse et dire, allez, fais faire un tour aux enfants, là. Tu vois. Elle avait vraiment une dégaine. La touche était très, 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 très particulière. Il n'y avait vraiment aucun effort pour plaire aux hommes. C'est vraiment, les hommes, allez vous faire enculer. Tu vois, il y a vraiment ça. Bon, après, elle fait ce qu'elle veut, hein, c'est sa liberté. Et les filles avaient systématiquement 18. Et les hommes, dès qu'ils étaient un peu testos, ce qui était assez rare en L, mais moi, dans ma classe de L, il y avait 3 tchads. Et en fait, les trois, on prenait des notes de fils de pute en philo, alors qu'on n'était pas si mal que ça. Bon, moi, vous imaginez bien, j'avais cité Jésus-Christ. J'étais encore de gauche, et j'avais quand même cité Jésus-Christ en courant philosophique. Donc, évidemment, j'avais pris des 8, des 9 toute l'année. J'arrive au bac, je prends un sale 16 en philo, un 14 ou un 16, je ne me rappelle plus. Mais une putain de note, hein, un truc de bâtard. Une des meilleures notes de ma classe. Il y avait un mec qui avait eu vraiment une très très bonne note parce que c'était une tranche, hein, mais j'avais eu la deuxième meilleure note. Hein. Et je me rappelle, la prof était là le jour des résultats du bac. Elle avait halluciné que j'ai cette note. Elle a fait waouh, ah bon? J'avais dit attends, grosse salope. C'est pas parce que t'as envie de couper tous les manches de la planète que ça fait de moi une merde en philo, en fait. Là, t'as confondu tes préférences personnelles avec la réalité du savoir, tu vois. Bon, sachant qu'à l'époque, j'avais déjà une bonne élocution et tout. Alors, il n'y a pas d'oral, hein, en philo, moi je l'ai passé à l'écrit. Mais j'avais une bonne note, j'avais une putain de bonne note et elle avait halluciné, en fait. Elle avait halluciné, elle avait complètement halluciné, elle pensait vraiment que j'étais un demeuré, un abruti. Ben voilà. Donc voilà, digression terminée. Oui, si je veux voir un film avec des lesbiennes, non, en fait, j'irai pas le voir. Voilà. C'est pour ça d'ailleurs que SOS Fantôme, celui avec les meufs, c'est un cas d'école. Hein. C'est un des SOS Fantômes, c'est le SOS Fantôme qui a le plus bidé, et c'est un des films, c'est le film avec des premiers rôles féminins qui a le plus bidé de l'histoire du cinéma. Voilà, comme ça c'est réglé. J'espère qu'ils recommenceront pas. Mais de toute façon, le wokisme, les wokis sont comme des enfants, il leur faut des claques. Et comme on est dans une société capitaliste américaine, le wokisme américain, les claques qu'il doit prendre, c'est des claques financières. Voilà. Par exemple, la bière Bud Light, là, qui avait pris un transsexuel complètement malade pour faire la pub de Bud Light. Bon, ben Bud Light s'est effondré. Bud Light s'est effondré. C'est un cas d'école. Les Mexicains, c'est-à-dire qu'en fait, les Mexicains avaient une bière qui s'appelait la Modelo. Les farmers américains qui détestent entendre parler espagnol, pour eux, tu leur amènes une BD de Mafalda, ils commencent à charger le 300 Winmag dans le magasin, si tu veux. Eux, ceux-là, ils ont préféré boire de la Modelo de paysans mexicains, tu vois. Les mecs qui votent Trump ont préféré boire de la bière mexicaine que boire de la bière Mais si tu veux, en fait, ce que ne comprend pas le capitalisme et les PD qui font de la pub, c'est qu'en fait, les mecs sur les chantiers, non. Tu vois, les mecs sur les chantiers, non. J'ai même pas besoin de dire la suite. Hein. Les mecs sur les chantiers, non. Tu sais, il y a des professions comme ça, non. Tu vois, non. Tu sais, j'ai même pas de dire ce qui va après le non. Tu vois? Je pourrais dire, les mecs sur les chantiers, non, les trucs d'homo, ça va pas, les trucs de fragile, les mecs qui ont des larynx bizarres, là, ils sont fait opérer de la choune, hein, ils sont pas encore fait opérer de la gorge, hein, donc en fait, comment il s'appelle? T'as Robert De Niro qui te parle, et en fait, l'enveloppe, c'est une espèce de version Wish d'un Brésilien, en fait, c'est très 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 chelou, tu vois. Tu sais, c'est une meuf, mais la voix, c'est... Salut. Il y en avait des trans comme ça dans les rues de Toulouse. Tu voyais des meufs, il y avait des putes, alors il y avait des Nigériennes, il y avait des Roumaines, tu sais, sur le bord du canal là. Et puis au milieu, t'avais des prostituées très particulières, avec des visages quand même, ils étaient particuliers, tu vois. Enfin, en fait, t'es pas censé avoir la tronche de Raymond DeVos quand t'es une femme. En fait. Et les mecs qui passaient en bagnole. Et moi, je connaissais un gars dont je ne vais pas citer le nom, qui était un gros gros consommateur de prostituées. Et cet enculé, il les connaissait, elle lui faisait signe. Et un jour, il passe devant une pute, mais infâme, devant un trans en fait. Il lui fait salut. Et l'autre, par la fenêtre, enfin, il était en bagnole, moi j'étais assis à côté, et par la fenêtre, j'entends salut. Oh putain, mais j'ose pas imaginer le cauchemar en fait. Bon, désolé, ça part dans tous les sens, mais on s'en bat les couilles, c'est ça qui régale. C'est l'aspect, tu sais, tu passes outre l'enveloppe. Tu passes outre l'enveloppe. Toi, tu te dis, bon, allez, c'est pas grave. Après tout, un rapport sexuel, c'est des frictions dans un interstice humide et chaud. Voilà. Tu sais, si tu réduis, c'est ça en fait. Bon, mais si tu commences comme ça, tu peux tout baiser après un crocodile, un homme. une poupée japonaise chauffante, enfin, c'est infernal en fait. Là, tu rentres vraiment dans la ligne de l'humanité. Donc, je, à la limite, mais si tu veux, si tu veux, même un crocodile, si tu le baises et que tu fermes les yeux, il n'y aura pas. Bon, il faut vraiment être fatigué pour faire ça. Il n'y aura pas le côté. Salut. Mais putain, mais c'est infâme. Mais je comprends pas pourquoi la société fabrique des trucs pareils. C'est pas possible. Si tu veux, l'aspect, tu te concentres, tu te dis, bon allez, c'est une femme. Et là, tu prends le salut des mecs qui viennent acheter des clopes au PMU, c'est pas possible. C'est pas possible, putain. Ah, mais putain, mais comment ils font? Ah. Putain, le mec, il s'installe, t'sais. Ah, il commence à se palucher un peu, là. Tu vois, pour te réveiller un peu, là, pour te mettre un peu la barre, quoi, tu vois. Donc, ça y est, t'as le barreau. Bon, là, faut y aller. Bon, déjà, je pense que tu sais pas trop dans quoi tu rentres. Parce que, si tu veux, ce genre d'animal, non, mais il y a tout. Enfin, c'est-à-dire que le mec, il a refait son anus en jetec. Enfin, je veux pas savoir. Je sais que ça fonctionne d'une manière très très particulière. Les mecs font faire des chats en plastique. Enfin, non mais là, il y a un moment, voilà, je veux pas savoir en fait. Voilà. Les gens vont dire, ouais, tu parles d'un sujet que tu connais pas. Oui, oui, fils de pute. Oui, il y a des sujets, faut pas les connaître en fait. C'est héroïque de pas les connaître. Oui, cet homme s'exprime sur la transsexualité, il connaît rien. Mais oui, et ça, dis-le le plus de monde possible, s'il te plaît, pour ma réputation, tu vois. Parce que ça aussi, tu vois. Oui, tu sais, maintenant t'as des mecs. Plus rien à la limite, il faut tout savoir, voilà, le savoir, d'accord. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend des gosses de 2 ans, ils nous disent comment on fait les enfants, et eh ben écoute, papa, il attrape maman, il lui frotte la pâture, et après, ah là là, il la baise, c'est ça qu'on doit dire aux enfants, en fait. Parce que les mecs, ils te disent, oui, l'obscurantisme, gna gna gna, le savoir, faut que tout le monde sache tout très très vite, ben non, en fait, non. Ça, c'est un exemple parfait. Le savoir, il est graduel. Le savoir, l'accès au savoir, il doit se faire de manière graduelle, en fait. Si tu veux, tu peux pas dire la même chose à un enfant de 3 ans qu'à un enfant de 8, qu'à un enfant de 15, qu'à un adulte. Voilà. Si ton enfant de 3 ans te dit « Papa, comment on fait les bébés ?», tu vas pas lui montrer un film de boule. Tu vas pas dire « Attends, assis-toi. Okay » Puis là, tu vas sur porn. Non, mais ça, c'est un dégénéré qui fait ça, en fait. Voilà. Tu peux expliquer mécaniquement comme ça. Et encore, faut pas que ce soit les parents qui l'expliquent. Faut une tierce personne, parce qu'après, le gosse, il imagine ses parents, c'est dégueulasse. Non, mais comprenez ce que je veux dire? Donc en fait, putain, je suis parti en couille, j'étais en train de parler de ma BD au départ, là, ça finit sur les transsexuels qui sont sous les abribus, là, sous les abribus de Toulouse, je suis parti en couille. Non, mais voilà, c'était pour vous dire le salut. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Les mecs comme ça, tu sais, bon, ils se font défoncer, ils font 4-5 passes, et après, il va acheter un sandwich au thon, en fait. Et il fume une énorme gauloise, mais en fait, c'est ça, quoi. C'est que le mec, c'est un mec, à la base. Voilà. Donc en fait, il garde ces trucs de mec. C'est-à-dire, oui, d'accord, il y a un médecin fou là qui l'a rafistolé pour je sais pas combien, quoi que maintenant avec la sécu c'est payé. Mais en fait, comment ça se passe? Enfin, le mec, il transforme pas le type en homme en fait. Enfin, il transforme pas le type en femme en fait, parce que la femme, ce n'est pas qu'une enveloppe. C'est une chimie qui fait que les gonzesses. Si tu veux, il y a que quand t'es avec des hommes qu'il y a des mecs qui chient avec la porte ouverte et que ça les fait rire, tu vois. Les meufs font jamais ça en fait. Ou alors quand elles sont toutes seules. D'accord? Les meufs, elles tripent pas sur ces trucs-là. Les blagues, là, d'un pote qui t'appelle, tu décroches, t'entends un P, les gonzesses font jamais ça, en fait. T'as jamais une meuf qui t'appelle, tu décroches, tu fais allô, et là, t'entends... Voilà, ça, c'est des blagues de maçon, en fait. Il y a que les hommes pour faire des trucs d'abrutis pareil. On est d'accord? On est d'accord, voilà. Donc, les gonzesses, ce n'est pas qu'une enveloppe. Les gonzesses, c'est tout un univers. D'accord? Les gonzesses, elles cassent la banane avant de la manger. Voilà, parce qu'elles savent qu'on les observe. Les gonzesses, tu veux, bon, il y en a certaines, oui, mais les gonzesses, elles, quand elles sont au resto, elles disent pas, ah oh, putain, je vais me péter le bide, on s'est cassé le bide. Les meufs font pas ça. Je pense que quand elles font caca, c'est des petites boulettes comme les lapins, ça sent pas. Nous, on lâche des colombins de Saint-Bernard, si tu veux, les hommes, ils chient comme les Saint-Bernard. T'as des gros colombins, on va plaf, tu vois, t'as la petite goutte qui remonte dans l'oignon. Les meufs, je pense qu'elles font des boulettes. Et les boulettes, sans rien, ça sent un peu la paille. Voilà. Elles font pas vraiment caca, les meufs, c'est pas possible, tu vois. Elles font des petites boulettes comme ça, plop, 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 plop. Après, elles sortent et voilà, tu vois. Elles se parfument, elles sont toutes propres, toutes fraîches. Hein. Elles bouffent pas, elles vont... Et, si tu veux, il n'y a pas des meufs qui rentrent au kebab et qui font « Wesh, frère, fais-moi un menu street gladiateur, tu vois. » Il n'y a jamais ça, en fait. Voilà, elles veulent une petite salade, gna gna gna, voilà. Donc, si vous voulez, ce que ne comprend pas le trans, c'est que tu peux... Enfin, c'est-à-dire qu'en fait, une meuf, c'est beaucoup plus compliqué que juste un vagin et des loches, en fait. Tu vois. Donc, en fait, quand t'as la gueule de Raymond DeVos, que t'as un goût de fils de pute, et que... putain, je suis en train d'imaginer, c'est infernal. Oh, putain. Et si, il faut pas que pendant l'amour, il y a des « Ouais, vas-y, vas-y. » Vas-y, Bernard. Ouais, Bernard, ouais. Putain. Il y a des soldats qui y vont, quoi. Mais moi, j'en connaissais un. Hein. Je vais pas citer son blaze parce qu'il est connu comme le loup blanc à Toulouse, mais putain, j'ai un pote proche. Il est allé avec des mecs comme ça. C'est bon, là. Vas-y, vas-y. T'as fini. Oh, putain, mais... Putain, mais c'est sordide, bordel. Il y a le moment où le mec doit le palucher un peu, c'est pour le chauffer, tu vois, donc il doit lui faire une fellation, enfin j'en sais rien. Attends, mon coco, je vais te mettre dur. Mais je pense que les mecs qui affrontent ces situations... Il y a un côté dans le regard. Ils doivent avoir un côté comme les anciens combattants, en fait. T'as le mec regarde dans le vide toute la journée. C'est que le mec a vu des trucs qu'il aurait pas dû voir. Et c'est pas forcément des enfants déchiquetés ou des potes à lui qui se font tirer dessus par les Vietcong. C'est, il y a le côté. Il y a le côté, t'as eu une relation asexuelle avec un individu qui a produit des sons de style « On se fume une clope après ». Putain, mais... On est au chantier ou on est au plus bas, là. Oh, putain. Mais en plus, les femmes, si tu veux, c'est tellement délicat. Une femme, c'est tellement beau. C'est tellement bien fait, c'est tellement mignon et tout. Elles ont leur côté d'énormes salopes et tout. On les supporte pas, on a envie de les claquer. Mais quand même, c'est quand même des créatures incroyables. Et quand elles vous aiment et qu'elles s'occupent bien de vous, c'est quand même incroyable. Donc si tu veux, quand tu sais ce que c'est qu'une femme et que tu te dis « Putain, là le mec l'a réduit à quelque chose de très très sale. » Il a réduit la gonzesse à quelque chose de très triste. C'est très très triste. Donc si tu veux, évidemment, l'aspect voix rock, haleine de clope et tout, ça va être très très spécial. Bon, désolé, je suis parti en gigacouille. J'étais en train de parler de la BD, je vous prie de m'excuser. Donc en fait, je disais... attendez, excusez-moi, je vais juste couper le podcast 2 secondes, excusez-moi les amis, je suis vraiment désolé. Je sais pas si je vais pouvoir recoller les 2 morceaux de là, parce que là j'ai... Bon bref, on s'en bat les couilles. J'ai fait une coupure d'1 heure là en fait. Je viens de faire une coupure d'1 heure parce que je suis en train de faire des travaux chez moi et j'ai reçu du carrelage. Voilà, je fais des trucs de gros espagnols, je reçois du carrelage en fait. Excusez-moi du coup de pour la coupure. Donc je disais qu'on, je crois que je parlais des salut quand tu vas voir des transsexuels dans la rue. Donc là c'est oui, il fallait que je me recentre sur la BD. Excusez-moi, je crois que j'étais un petit peu parti dans tous les sens. Donc je disais, excusez-moi, c'est le temps que ça revienne, que donc vous avez joué le jeu parce qu'en fait faut savoir un truc, c'est que quand on fait du travail créatif, si vous voulez, on est attendu au tournant. Comment vous expliquer ? Vous le savez pas parce que je veux pas mettre ces gens-là en lumière, mais j'ai beaucoup 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 de gens qui sont très 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 remonter contre moi parce qu'il y a de la jalousie, parce que je les supporte pas, parce qu'ils estiment qu'ils devraient être à ma place. Il y a un type notamment qui a la quarantaine passée, qui a échoué à peu près dans tous les projets qu'il a fait. Je veux absolument pas donner de nom parce que ça serait faire de la publicité et je veux surtout pas. Mais si vous voulez, c'est quelqu'un qui s'emploie systématiquement à tenter comment dire, de me diffamer, d'entamer ma réputation en faisant, par exemple, s'il y a une micro-polémique, ça va prendre une ampleur monumentale. Et quand je lève 500 000 euros dans une cagnotte pour un paysan, plus de 170 000 dans la première, là, il n'y a pas de vidéo. Vous voyez un peu le style ? C'est des gens qui attendent de voir le moment où on va chuter. D'ailleurs, c'est assez drôle, je me rappelle la vidéo de l'autre imbécile là, qui m'avait insulté, que j'avais fini par boxer et que j'avais daronnade à la fin parce qu'en fait, il s'était rendu compte qu'Internet, c'est pas la réalité et que quand tu pèses 85 kilos et que tu insultes un mec de 110, ben, sur le ring, ça finit en titubant. Donc lui avait professé, il faudra que je retrouve l'extrait, mais il avait dit, c'est le déclin de Papacito, il avait dit ça il y a 2 ans. Voilà. Bon, le déclin de Papacito, j'ai droit chaque année, Papacito, il est fini. Et voilà. Et après, il y a, grâce à vous, il y a des preuves factuelles que non, que je suis toujours dans la course. Parce qu'en fait, ils s'y mettent tous. Vous avez, ça il faut le comprendre, vous avez tous les journalistes de gauche, d'extrême gauche, enfin les journalistes en général, parce qu'ils sont tous d'extrême gauche, même quand ce sont des médias qui ne sont pas d'extrême gauche, mais je veux dire, tous, ils n'ont vraiment qu'un rêve, c'est qu'on s'écroule, c'est qu'un jour ils puissent apprendre que j'ai défenestré ma femme par la fenêtre. Alors là, il y aura 200 millions d'articles, ce sera couvert, vous inquiétez pas, là on parlera de moi, là je serai pas Shadowban. Voilà. Mais dans toutes les réalisations que j'ai, je n'ai jamais. Faut vraiment voir ce que c'est. Hein. C'est-à-dire, si tu te gourres, tu n'as pas droit à l'erreur. Si tu fais une erreur, elle sera démultipliée, amplifiée, reprise par tous les tocards qui font du commentaire, tous les ratés, toutes les pauvres merdes qui font du commentaire sur... Il y a une époque, là, il y a 2 ans, 1 an et demi, dès que je faisais un truc, vidéo de... je vais pas les citer. Il y a 4-5 tocards qui font du commentaire et vidéo commentaire pour dire « Ah là là, mais regardez, drama, voilà. » Et puis c'est des mecs qui font, ils font leur vue essentiellement. Leur maximum de vues, c'est essentiellement quand ils parlent de personnes qui, eux, créent, qui se mettent en danger, qui proposent des choses. Mais c'est vraiment, si vous voulez, le problème, c'est que vous avez quand vous avez des échecs du point de vue personnel, artistique et tout ça, mais même professionnel, ce que vous voulez, amoureux, il y a deux possibilités. Soit, en fait, vous remettez en question, vous dites, si j'y arrive pas, c'est qu'il faut que je change quelque chose. Soit vous avez trop d'ego. Et c'est le monde, en fait. Le monde n'est pas à la hauteur. Le monde n'est pas à la hauteur de vous, finalement. Le monde ne vous mérite pas. Mais ça ne marche pas comme ça. La qualité est récompensée, si vous voulez. Voilà. Moi, je n'ai pas la prétention de toucher le même stream international. Ce n'est pas ça. Mais je sais que le public, vous, les gens à qui je m'adresse, je sais que vous avez des standards, vous avez du goût, vous avez des attentes. Donc, je choisis, après, de faire ça et de ne pas décevoir les gens qui me suivent. Il y a des gens, ils sont dans un état de frustration parce que ils ont créé, ils ont surévalué. De toute façon, c'est les gens qui le disent. Si vous faites quelque chose de qualiteux, ça peut être de la chance, si c'est une fois. Si c'est une deuxième fois, allez, vous avez un deuxième coup de chance. Mais 3, 4, 5, 6, 7 fois, c'est pas un coup de chance. C'est qu'en fait, si ça marche, c'est que vous faites du bon travail, que vous respectez les gens à qui vous adressez et que vous les régalez et que du coup, ben, ils vous font confiance. Et en fait, quand vous reproduisez quelque chose de qualité, ils vous font confiance. Et voilà. Et d'ailleurs, vous pouvez casser tout ça en faisant une merde. Tu fais une merde, tu prends ton argent. Par exemple, là, si demain, je vais dans une maison d'édition... Et j'accepte de coécrire un bouquin avec un mec un peu connu, que je vends mon âme au diable, et qu'en fait je fais une merde en me disant, de toute façon le public m'a suivi jusque-là, ben non en fait. Le public il va se faire avoir une fois, il va pas se faire avoir deux fois, parce que je m'adresse pas à des demeurés. Donc si vous voulez, en fait, si ce que vous faites ne marche pas, il faut pas en vouloir aux autres en fait. Il faut vous remettre en question et trouver ce qui va pas. Et ça, c'est une attitude positive. Et si vous voulez, le problème, c'est que vraiment, Internet est rempli de mecs avec des égos surdimensionnés qui ne comprennent pas pourquoi le monde ne leur renvoie pas l'image qu'ils ont d'eux-mêmes. Ils ont une image d'eux-mêmes, ils ont une vision d'eux-mêmes, ils estiment être à tel niveau. Et en fait, ils ne comprennent pas et c'est une véritable frustration. Enfin, il y en a un notamment... avec qui j'ai eu travail à l'époque, qui a vraiment raté tout ce qu'il avait entrepris, qui maintenant se borne à faire du commentaire. Et si vous voulez, il est dans un état de frustration, mais qui n'est même pas bon pour lui, parce qu'en fait, il faut jamais baisser les bras, il faut se remettre en question, mais des fois même très très violemment, c'est putain, il y a des choses qui ne font pas, il faut que je travaille en profondeur. Et, et c'est comme ça que votre travail est toujours de meilleure qualité. Et en fait, ils ne se rendent pas compte qu'en étant sur mes côtes en permanence, ils rendent mon travail de plus en plus précis. Parce que comme je n'ai pas droit à l'erreur et que je suis attendu au tournant, je dois de plus en plus me casser le cul pour faire des trucs vraiment exceptionnels et sur lesquels il n'y a rien à redire. Donc finalement, en fait, quelque part, et je le dis sans ironie, je pense que quelque part, travailler avec cette pression, ben, c'est pas plus mal parce que ça vous force à faire des trucs vraiment très très carrés, à pas prendre les gens pour les cons et à vraiment vous dépasser pour que ce que vous produisez, vos productions, soient le top du top. Voilà. Et donc, au final, ces gens-là, en fait, quelque part, me rendent service, même si je me passerais bien de la pression qu'ils me mettent parce que je suis quelqu'un qui aime vivre tranquillement, mais finalement, quand je vois les résultats que ça amène au niveau du succès qu'on a dans les ventes, puisque là on est numéro 1 10 jours avant la sortie, les gens ne se rendent pas compte. Hein, c'est en n'ayant aucune couverture médiatique officielle, si vous voulez, c'est quelque chose de malade. On avait déjà été best-seller. Moi, j'ai été best-seller sur l'année 2017. Non, sur l'année 2018 et sur l'année 2020. J'avais été best-seller pour mes deux bouquins. Donc, respectivement, c'était Crépuscule des Titans, je crois, en 2019. Ouais, alors, c'est pas 2018, c'est 2019. C'était Crépuscule des Titans et on avait fait un FDP, le 2, je crois, qui avait été best-seller. Voilà. Et pourtant, pas de couverture médiatique, pas d'émission, pas de copinage. C'était vraiment à la force du bouche à oreille, donc en partie grâce à vous. Et évidemment, grâce à la qualité intrinsèque des œuvres qu'on produit. Donc, si vous voulez, cette pression permanente qu'on a de l'extrême gauche, mais aussi des ratés d'extrême droite, ou des ratés de droite, et Dieu sait qu'il y en a, Dieu sait que ce milieu, d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pris mes distances, parce que beaucoup de gens qui sont très lourdingues, avec très très peu de talent, et qui profitent, en fait, si vous voulez, vous avez des créateurs, vous avez des commentateurs. Et en fait, à un moment, comme les commentateurs les créateurs ne se dissociaient pas des commentateurs par solidarité, moi, c'est ce que j'ai fait pendant très longtemps. J'ai un peu validé des types qui n'étaient pas très bons. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai arrêté de le faire. Et j'ai dit non, en fait, moi, même au service de la cause, il faut arrêter de coopter des mecs qui sont nuls. Et quand tu arrêtes de donner de la force à ces mecs-là, ben, ils se retournent contre toi. Et en fait, ils ne supportent pas de passer au second plan. Parce qu'au final, si tu n'es pas là pour doper leur exposition, ben, le public n'en a plus rien à foutre, n'a pas envie de les écouter. Parce que ce sont des mecs qui sont rances, ils ont de la noirceur à l'intérieur. Et finalement, ils donnent pas grand chose de positif. Et ce sont des gens qui vivent vraiment avec une frustration conséquente. Et alors, on s'en rend pas compte d'un point de vue extérieur, mais moi qui les ai beaucoup sur le dos, je vous en parle très très peu parce que ce sont des gens qui cherchent vraiment à vous atteindre et qui cherchent à exister, en fait, d'une manière ou d'une autre. Et ils arrivent pas par le succès, donc ils le font par la nuisance. Mais ils se rendent pas compte que cette nuisance nous force à être meilleurs. Donc finalement, ils ne font que renforcer notre capacité à nous transcender. Donc en quoi la nature est bien faite, en fait. Et c'est pour ça que je crois en Dieu, d'ailleurs, c'est que je pense que le bien triomphe toujours du mal, y compris de cette façon-là. C'est-à-dire, quelque part, le mal génère la volonté de mal, si vous ne tombez pas dans la confrontation, parce que c'est ça qu'ils attendent, c'est qu'on parle d'eux, qu'on dise le fait de les ignorer, ben, c'est quelque chose de positif, parce que vous ne rentrez pas dans ce jeu de la réponse et vous sortez de la vengeance, donc quelque part, il y a une forme de pardon. Donc du coup, vous transformez cette volonté de fermer leur gueule à ces gens-là en qualité de votre travail. Et ça finit numéro 1 sur Amazon. Et je sais que ces mecs-là écoutent mes podcasts, je sais qu'ils surveillent absolument tout ce que je fais et ils sont dépités. Année après année, ils sont dépités. Parce qu'année après année, ils postent des trucs sur Twitter infamants, ils me diffament par association, un tel a fait ci, donc je suis responsable parce que je lui ai parlé, je sais pas quoi, voilà. Donc ils cherchent les pires stratagèmes possibles pour essayer de me disqualifier et quoi qu'ils fassent, quelle que soit l'étendue de leur haine et de leur somme, ben ça finit numéro 1 Amazon 10 jours avant la sortie officielle. Voilà. Et c'est finalement la meilleure punition et c'est la meilleure gifle que je puisse leur mettre. Et bon, ce qu'il y a de très très drôle, c'est qu'en plus, je sais les moments où ils sont vexés parce qu'ils arrêtent de parler de moi parce qu'il y a eu. L'affaire Montjoie, ça a été une masterclass en fait. C'est-à-dire que là, c'était fini de m'accuser, d'être intéressé. J'ai perdu ma chaîne YouTube. Tout ce qui faisait. Tout ce qui pouvait me faire de rentrer de l'argent facilement a sauté. J'ai plus de chaîne YouTube, j'ai été censuré de partout, j'avais plus de moyens de soutenir mon travail et de proposer mon travail. C'est pour ça que je suis venu faire les podcasts parce qu'en fait, au final, c'était une manière de me réadapter. Et vous savez, la survie, c'est l'adaptation. Ce que disent les évolutionnistes, c'est que les espèces qui survivent sont les espèces qui s'adaptent. Et pour s'adapter, ben, faut avoir des choses à dire, faut avoir des choses à raconter, faut avoir du talent, et souvent le talent est corrélé au parcours. Et si vous n'avez pas de parcours, vous avez un parcours, vous avez un parcours où vous vous êtes évité beaucoup de douleurs, beaucoup de souffrances, ben vous n'aurez pas grand chose à raconter. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'insiste autant à mettre en valeur les gens qui ont de l'adversité, parce que toute la souffrance que vous avez, toute l'adversité que vous avez, vous rend plus intéressant, avec plus de relief, avec plus de profondeur. Voilà, c'est comme ça. Plus vous vivez, plus vous. C'est une phrase d'un philosophe espagnol qui s'appelle Unamuno, que je cite de temps en temps, qui disait la vie à consommer sans modération. Voilà, avec tout ce qu'elle a de pire et de meilleur, les bonnes comme les mauvaises expériences vous fabriquent toujours plus de profondeur, toujours plus de capacité d'analyse, de prévoyance, de clairvoyance, de sagesse en fait finalement. Et c'est pour ça que les personnes âgées étaient considérées comme très très sages dans les sociétés anciennes, parce qu'en fait, auprès d'eux, tu avais des gens qui avaient tellement vécu des choses dures, tellement vécu d'adversité que tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort, et bien à la fin, t'es très très fort parce que t'as beaucoup de sagesse, voilà. Et donc, c'est des gens qui essaient de me tuer régulièrement par association, par diffamation, en essayant de faire péter des scandales. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas le talent, ni l'éloquence, ni l'intérêt suffisant pour que ça ait de la portée. Et donc, du coup, ben moi, ces choses-là finissent par me parvenir, parce qu'il y a toujours quelqu'un dans votre communauté qui vous dit, regarde, il a mal parlé de toi, il m'envoie un extrait, je vais pas voir la vidéo parce que je ne veux pas donner de force, mais je sais ce qui s'est passé. Donc, je me dis, au lieu d'aller répondre, c'est ce qu'il attend, je vais lui mettre dans la gueule, mon perfectionnement dû à toute la rage qu'il a mis dans la critique qu'il a voulu faire de moi, voilà. Et je vous dis, c'est une superbe manière de se faire justice, voilà. Bref, donc du coup, c'était pour vous dire que le public, quand il vient, malgré tout ça, malgré les journalistes de gauche, malgré la censure des plateformes, malgré la jalousie des autres tocards du milieu, quand le public est là pour venir nous appuyer et venir valider, parce que si vous voulez, à la fin, vous avez tellement de gens sur le dos que vous dites, putain, mais peut-être qu'ils ont raison, parce qu'en fait, les gens qui vous aiment bien, ils sont pas là à commenter tout ce que vous faites en vous disant, ah putain, super, j'ai adoré, les gens qui le font, c'est super, mais c'est très très peu. En revanche, les gens qui vous aiment pas, tout ce que vous faites sur internet, toute la moindre extrait de vidéo, ils viennent commenter, ils viennent jeter leur fiel, parce que il y a vraiment beaucoup de d'émotions mal canalisées, et ils ont besoin d'en parler. Et donc, du coup, si vous voulez, à la fin, vous êtes à deux doigts de vous remettre en question, vous dites, mais attendez, c'est quand même, je mérite pas ça, enfin, pourquoi autant de haine? Et vous rappelez que ces types-là ne pèsent rien du tout, et puis tout d'un coup, le vrai public, celui qui suit depuis toujours, les gens qui n'ont pas de frustration dans leur vie, et qui sont des gens normaux, en fait, en réalité, et qui ont pas cette espèce de jalousie dévorante, ils viennent vous rétribuer avec des mots sympas, et aussi via leurs achats, via la validation qu'ils font. Enfin, moi, je sais pas si vous vous rappelez, ma chaîne a été supprimée, je me suis dit, bon, le public, il en est où, quoi? Voilà, est-ce qu'ils m'ont oublié et tout? Putain, je sors la vidéo Montjoie, ça a été un succès absolu, quoi. 500 000 vues sur une chaîne qui avait 6 000 abonnés, même pas, 3 000, 5 000 abonnés, je sais plus. Enfin, un truc dérisoire. 500 000 vues en 24 heures. Là aussi, on a été chez Abodoban, ça a arrêté d'un coup. Et une cagnotte qui est montée à 500 et quelques mille euros, qui a permis d'ailleurs de créer une association d'aide aux paysans. Donc un truc monumental, quoi, un truc absolument merveilleux, et c'est sublime parce que là, c'est souvent mes détracteurs adorent dire, mais qu'est-ce qu'il fait dans le réel? Ben, dans le réel, j'ai réuni de l'argent pour des associations de militaires, plusieurs milliers d'euros pour des associations militaires. Ce sont des choses qu'eux n'ont jamais fait. On a créé avec la ferme des cochons laineux, sur son initiative à lui, parce qu'il est très implanté dans le monde paysan, ben, pour vous remercier de toute l'aide que vous lui avez apportée, il a créé l'association Sésame qui va pouvoir sauver des fermes. Il a déjà sauvé, enfin, il a contribué à aider un paysan dont la ferme avait été brûlée. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que là, ça y est, au bout de 10 ans, mon travail commence à se concrétiser dans le réel. J'étais allé à l'époque avec Baptiste dans une distillerie d'Armagnac, Gélas, qui en était à 4 générations, et on leur a permis d'embaucher des personnes, on a relancé la petite affaire familiale. Ben, je crois que déjà, juste avec ces trois trucs-là, sans parler de toute l'influence qu'on a eue sur beaucoup de jeunes qui sont retournés à l'église, ça c'est ce que me dit l'abbé Raffray régulièrement, il me dit il y a énormément de jeunes qui viennent chercher à se convertir, à faire leur catéchuménat, ils viennent parce qu'ils sont tombés sur tel podcast, sur tel Burger King, sur telle vidéo, et ça me fait extrêmement plaisir. Donc les applications dans le réel de tout ce travail, et moi et d'autres, hein, je veux dire, moi c'est parmi d'autres, hein, mais par exemple le Raptor a beaucoup contribué à faire émerger certaines idées, il a créé des entreprises, il a montré qu'on pouvait être indépendant, chier sur la gueule des journalistes et avoir une entreprise, et aujourd'hui les journalistes sont en PLS parce qu'ils veulent cancel le Raptor, ils vont appeler qui, Raptor Nutrition, pour dire d'arrêter de travailler avec Raptor, ben en fait le directeur de Raptor Nutrition c'est le Raptor en fait, donc ils sont baisés, et si vous voulez, mine de rien, en 10 ans, on a fait bouger les lignes terriblement, et je vous dis là, quand je vois le record de vente qu'on vient de faire avec cette BD, je me dis, c'est vraiment l'aboutissement de tout ce travail-là. Ça n'a pas été fait dans le vent. Il y a eu beaucoup de sacrifices. J'ai beaucoup été insulté, beaucoup diffamé. L'objet de beaucoup de jalousie, de beaucoup de coups bas. Et au final, putain, le public, quand même, a la clairvoyance de voir, de séparer les faux scandales et les diffamations de ce que j'ai pu faire comme sacrifice dans le réel. Parce que je vous garantis qu'il y a peu de youtubeurs qui seraient allés foutre leur chaîne en l'air pour aller aider un illustre inconnu au fin fond de sa campagne par amour pour le monde paysan. Donc si vous voulez, j'ai l'impression, et ça c'est une très très belle leçon de vie, c'est que j'ai vraiment l'impression que quand on fait des sacrifices, hein, tôt ou tard, vous voyez, ça fait 10 ans, là si vous voulez, j'ai commencé à vraiment être rétribué depuis 2-3 ans. Ça fait 2-3 ans que vraiment je vois que le public, vous avez pris conscience du sacrifice et vous vous êtes mis, vous aussi, à faire des sacrifices. Parce que je sais qu'acheter une BD, contribuer pour telle cagnotte, s'affirmer un petit peu plus politiquement, même au sein de vos familles, je sais qu'à votre échelle, c'est un sacrifice financier, c'est une marque de respect. Et je crois qu'en quelque sorte, sans me faire péter les chevilles et tout, ben, je crois que ça vous a inspiré. Cette détermination, mais moi-même, cette détermination, je l'avais pas quand j'étais jeune et quand j'ai démarré. Hein. Moi, c'est des types avant moi qui m'ont fait halluciner par leur détermination et leur compétence à encaisser les coups. Et finalement, ben, en fait, on se transmet ce truc. Moi, je l'ai reçu et puis je vous l'ai transmis à travers les vidéos que j'ai faites et les explications que je vous ai données. Et vous l'avez exercé à votre niveau dans vos vies personnelles et je trouve ça merveilleux. Je trouve ça merveilleux. Ça veut dire que tout ça, finalement, même s'il y a des vannes, même si on rigole, même si je parle des transsexuels qui font des « Salut !» Finalement, les bonnes valeurs, elles passent aussi. Et malgré le fiel de tous ces fils de pute que j'ai sur les côtes, putain, en réalité, les gratifications que vous me donnez les balayent, mais d'un revers de la main, quoi. Je les remets à leur place d'une manière extrêmement violente, parce que si vous voulez, ils sont face à ça, ils sont face à ce déluge de succès et à... Et c'est très drôle, il y a un mec qui faisait une série de vidéos pour parler des gens qui m'avaient clashé, pour dire que je me faisais, je cite, « désanusser par un tel, gna. » Et à un moment, celui-là, il s'est levé un matin et il a vu la cagnotte à 500 000 euros, une vidéo à 500 000 vues alors que j'étais pas venu sur Internet depuis un an et demi. Il y a des gens qui expliquaient sur Internet que je les invisibilisais parce que je captais toute l'attention. Je suis parti de YouTube pendant un an et demi. Je n'ai rien fait sur YouTube pendant... un an et demi, quand on a sauté ma chaîne, c'était tout en podcast. C'est pas pour ça que leur contenu a eu plus de succès. Donc, je les ai mis face à une réalité qui est non. C'est pas moi qui invisibilise, c'est pas moi qui t'empêche d'être bon. C'est pas moi qui mets des freins à ta carrière, c'est que tu n'es tout simplement pas assez bon. Parce que je suis parti pendant un an et demi et il s'est rien passé. Regardez, je suis désolé, hein, je vais parler de ce qu'était le YouTube de droite. Hein. Les créateurs sont partis. Les créateurs, il y avait qui? Il y avait le Raptor, il y avait moi, on était les deux plus gros. Vous aviez ensuite Valek, Bruno Le Salé, vous aviez Baptiste, vous aviez Julien Rochdy dans une moindre mesure. On est parti. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Il n'y a plus rien, il n'y a plus de créateurs, vous n'avez que des commentateurs. C'est fini. Vous avez très peu de vous avez quelques gars comme ça qui font des trucs intéressants. Vous avez par exemple Georges qui fait des trucs intéressants, qui se casse le cul, qui sert à l'initiative. Mais de la création pure, je vous parle. De la création pure, c'est fini. C'est fini. Donc si vous voulez, tout s'alourdit, tout devient extrêmement lourd d'un coup. Et en fait, ça veut dire que finalement, c'était nécessaire d'avoir des gens comme ça, quel que soit leur niveau de personnalité caricaturale. Oui, effectivement, on a des façons d'être qui sont très particulières, mais parce qu'après, pour supporter tout ça, la pression, les procès, toute la haine des gauchos, des droitards, des frustrés et compagnie, il faut avoir les épaules larges. Et personne n'a émergé. Personne n'a émergé parce que il faut avoir beaucoup, beaucoup de skills et en même temps. Il faut être intéressant, il faut avoir des choses à raconter, il faut amener des choses aux gens, il faut supporter les attaques, faut supporter les attaques, y compris journalistiques, des gens de votre milieu et ensuite du camp d'en face, c'est-à-dire de l'extrême gauche. C'est pas rien. Plus la censure, vous vous battez avec les deux mains attachées dans le dos, quoi. Donc vous pouvez mettre que des coups de boule. Ben voilà, ça fait des coups de boule à numéro 1 sur Amazon 10 jours avant la sortie officielle du livre. Voilà. Désolé, hein, je me gargarise, mais si vous voulez, c'est les choses que je garde pour moi. Je dis rien, je fais mon boulot, et un jour, paf, je me réveille, et en fait, vous avez été là, et c'est Dieu qui fait tout ça, vous voyez, c'est Dieu qui donne la force, c'est Dieu qui donne l'inspiration, c'est Dieu qui donne. Donc si vous voulez, tout d'un coup, Dieu me dit non, attends. Toutes ces vipères qui vociféraient, moi j'ai vu. Voilà, moi je sais, moi j'ai vu. Le monde horizontal peut raconter ce qu'il veut, c'est moi en dernier lieu qui couronne, qui doit être couronné. Voilà. Et si vous voulez, par votre entremise, ben, quand il fait ça, il me couronne vis-à-vis de ces gens-là, qui sont des tocards et des ratés. Et vraiment, c'est quelque chose de merveilleux. Et d'ailleurs, ça, c'est vraiment une énorme leçon de vie. Quand vous êtes tourné vers le positif, tôt ou tard, même si vous devez avaler des couleuvres monumentales, le positif revient. Moi je vous dis, enfin, désolé, ça va être un peu long, je parle dans tous les sens. Vous savez, le pain noir, j'ai commencé à le manger très très tôt. Hein. J'ai fait des études qui m'ont amené vers rien du tout, parce qu'en France, on vous fait faire des études, on vous dit, voilà, t'es sociologue. Bon, mais t'es pas sociologue du tout, t'es un fils de pute qui sort de fac de lettres, comme il y en a des millions, et en fait, t'es une énorme merde et tu sais rien faire. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait du déménagement. J'ai fait du chantier. J'ai fait de la sécurité. J'ai vraiment fait des boulots. J'ai travaillé à Rungis. J'ai fait le conditionnement de la viande à Rungis. J'étais à côté de l'endroit où on débitait la viande, des abattoirs. Et je faisais je faisais les emballages à la chaîne, quoi. Enfin, j'étais dans les endroits où on fait dans les machines d'emballage pour faire de la manutention. Donc je soulevais des barquettes de barbac toute la journée, si vous voulez. Je me levais, je me rappelle, putain, vous connaissez ces sensations là? Mais ça, tu peux le faire que quand t'as 20 ans, c'est pas possible, quoi. Et après, quand tu prends de l'âge, faut que tu t'organises, parce que quand t'es jeune, en fait, tu te couches tard, tu te lèves tôt, ça va, l'organisme y suit. Mais quand tu fais ça, moi je me rappelle là, quand j'étais déménageur, j'avais dépassé la trentaine. Putain, c'était dur. J'ai énormément de respect pour les collègues qui continuent, parce que putain, tu sais, quand tu t'es couché tard parce que le sommeil vient pas, puis ensuite tu dors, t'es bien, et quand t'es bien, là, le lit, la température, t'es bien, le matelas, il est parfait, il y a la petite chaleur, là, de quand il n'y a pas trop de chauffage dans la chambre, t'es sous ta putain de couette de fils de pute en microfibre, là, tu sais, que t'as acheté la couette Tex à 37€, tu sais, à Carrefour, celle de tous les prolos, mais elle est bien quand même, tu sais, t'es dessous, t'es bien, là, comme ça, tu sais, oh, t'es un gros bébé finalement. Il y a un énorme sein qui est la vie et qui te fait dormir, et tu es en train de le téter comme ça. Hop, tu es contre une tétine géante. Ton matelas est une tétine. Et tout d'un coup, t'avais le réveil. Puis moi, j'avais un réveil horrible. J'avais tellement pas de pognon que j'avais gardé le réveil que j'avais des années 90, qu'on avait acheté en Andorre quand j'étais gosse, parce que l'électronique était moins chère en Andorre. Et le réveil, la sonnerie, c'était. À deux doigts de te traiter de fils de pute, le réveil. À deux doigts de te dire debout en allemand, tu vois. À deux doigts de t'insulter, tu vois. Allez, fils de pute, debout. Tu vois, c'était presque ça, tu sais. Et je me rappelle la violence du réveil. Oh. Et là, ta vie est un couloir, tu sais, vers un échafaud, tu sais, qui s'appelle la mort. Tu fais, oula, ça va être ça tout le temps, là. Avec 2 mois de vacances au milieu, là. 1 mois et demi de vacances au milieu, à peine. Enculé, la violence, ça. Ça va être vraiment ça, me lever à 4h30 pour aller embrayer à 5h30 à Rungis, enculé. En plus, je prenais des bus de fils de pute. Tu sais pas ce que c'est, le bus? Est-ce que c'est l'Arche de Noé? Est-ce que c'est un bot people? T'avais toutes les races dedans. T'sais, t'avais des clodos bourrés, t'sais, les vieux clodos blancs là, qui sont au PMU dégueulasses, là, qui rentraient chez eux dans leur taudis, ils se sentaient, enculés, ils suaient du pastis, les mecs, t'sais. T'avais des graines d'anis qui leur sortaient du cul, c'était infernal, tellement qu'ils avaient bu de pastis, quoi. Ils étaient vraiment infernaux. Tu sais, les mecs, ils suintent de la résine de réglisse, en fait, tellement qu'ils sont imbibés de 51, en fait, de Ricard. Tu vois, ils boivent pas du Ricard, ils boivent du Ricard. Voilà, tu vois. T'as ça, t'as des clandos très chelous qui vont faire des boulots que personne veut faire. Tu sais, c'est là où tu vois que la France est une terre d'immigration. Vraiment, le bus, c'est. c'est le cinquième élément, en fait. C'est la cantina dans Star Wars. Tu vois, c'est un exemple que je prends souvent. C'est tu rentres, il manque plus que la musique, là. Attendez, c'est quoi la musique? C'est la cantina de Star Wars. Je suis sûr que vous avez cette scène en tête. C'est la scène de quand le mec, il arrive avec Han Solo. Ils arrivent, je crois, que sur Tatooine. Et en fait, il rentre dans un bar qui est censé être un bar de, à l'époque, ça représente un bar spatial, quoi, un bar du futur. Enfin, remarquez, non, parce que Star Wars est censé s'être passé il y a très très longtemps, long time ago in lointaine galaxie, là. Attendez, Cantina Star Wars, voyons, est-ce qu'on l'a là? Est-ce qu'on l'a là? Je crois qu'on l'a là. Bougez pas. Tu prends un octilien à 4h30 du mat, t'es dans la cantina de Star Wars, quoi. Tu rentres et là tout d'un coup quand tu vois des mecs avec des têtes cheloues, ils viennent de planètes différentes. Je suis désolé, l'Afghanistan, je suis même pas sûr que ce soit sur la planète Terre, tu vois. Je pense que les mecs viennent en vaisseau spatial, c'est pas possible, tu vois. Je pense que quand tu leur enlèves leur turban, tu sais, dessous il y a des antennes, c'est pas possible, tu sais. Donc tu rentres dans le bus. Tu valides, tu sais, et là t'entends. Est-ce qu'il y a un humain ici? Excusez-moi, est-ce qu'il y a un humain? Oh putain. Oh. Oh, c'est Star Wars, grand. Oh putain, tu rentrais dans ces bus, j'arrivais à Rungis. Ah, l'entrepôt, il faisait froid. Il faisait froid. Et puis je me rappelle, tu prenais la douche, quand. Et putain. Mais déjà, quand tu sortais du lit. Parce qu'en fait, une fois que t'as pris la douche, c'est bon, tu t'habilles, ça y est, tu sors dehors et tout. Mais le cerveau, il est encore dans le plumard, t'es encore contre la tétine, t'sais, t'sais, la grosse tétine, là, le matelas tétine, tu vois. T'as envie d'être un gros bébé, en fait. T'as pas envie d'avoir grandi, tu dis, mais pourquoi? Pourquoi je suis plus avec maman, là, en train de téter un gros sein? Est-ce que quelqu'un peut me donner un biberon? J'ai pas envie d'aller travailler. Il y a vraiment ça, en fait. T'as froid, parce que moi, je me rappelle, évidemment, j'avais pas de pognon pour foutre du chauffage, donc je me caillais les burnes. Mais j'ai passé ma putain de vie de mes 20 à mes 30. J'ai commencé à avoir suffisamment de pognon pour foutre du chômage chez moi vers 30 ans. Voilà. C'est terrible. Hein, de mes, parce que moi, j'ai commencé à travailler à 20 ans. Enfin, même un peu avant, mais on va dire les vrais boulots, je parle à plein temps. C'était à partir de mes 20 ans. Donc, de mes 20 à mes 30, je n'ai fait que travailler dans des années où j'avais deux boulots cumulés. Sécurité, déménagement. Enfin, si vous voulez, bah, là, remarquez, à Rungis, à Paris, j'étais pion et je bossais à Rungis. Et puis après, j'ai fait que Rungis. J'ai fait que la viande. Mais... Putain, la violence du réveil dans l'appartement où il fait froid, il n'y a rien à bouffer. T'sais, des fois, tu as un miracle, quand tu es étudiant et que tu n'as pas de pognon, des fois, tu ouvres un placard et derrière les poches, les trucs, les paquets de sucre et tout, qui sont vides d'ailleurs, là, tu trouves un paquet de pépito que tu avais oublié. Et là, tu es heureux, tu es le roi du monde. Tu es à l'avant du Titanic, tu écartes les bras, là, tu vois, avec la grosse rousse, là, tu vois. Tu dis, enculé, j'ai trouvé des bamboulas, là, des... Alors, les gâteaux, hein, parce qu'à l'époque, il y en avait encore. J'ai trouvé des pépitos, là. J'ai trouvé des... Tu sais, puis souvent, c'est des gâteaux décevants, c'est l'entrée de gamme. Tu sais, c'est les trucs que t'as acheté à Lidl, comme un fils de pute. 70 centimes le paquet, qu'est-ce qui se passe, en fait? C'est quoi? C'est en fait, c'est des Indiens, ils sont de l'usine, ils chient, on déshydrate la merde, on en fait un gâteau, parce qu'en fait, le prix que ça coûte, c'est ça, si tu veux. C'est pas possible, tu sais. Donc, si tu veux, tu trouves ça, t'es le roi du monde. Alors, tu le trempes dans ton café au lait quand t'as du lait, tu sais. Et là, ça va. Après, tu sors dehors, le cerveau, il commence, et là, tu rentres dans le bus. Il fait encore nuit. Il fait encore nuit. Puis, t'as cette espèce de vieille humidité de fils de pute, là, de la banlieue parisienne. C'était infernal. Moi, j'étais à Arcueil-Cachan, là. Le Noctilien, je me rappelle plus le numéro que c'était. Je crois que je prenais le 184 pour aller à Port-d'Orléans. Et donc, ouais, bon, bref. Le Noctilien, je me rappelle plus ce que c'était. Puis, tu partais vers Rungis, comme ça, là. Tu traversais le 94 et tout, là. Putain. Dans la cantina de Star Wars, là. T'as envie d'écrire des lettres de poilu. T'as envie d'écrire à tes parents. Parents, virgule. C'est comme un poilu. Enfin, 376e jour à Paris. Voilà un an que j'ai quitté le sud-ouest. Je suis dans un bus, entouré de créatures étranges. Il y a à côté. T'es sous le feu, si tu veux. Tu rentres dans le bus, et... Moi j'ai l'extrait là parce que je l'ai foutu sur YouTube. Tu vois des têtes et les extraterrestres ils font des. Mais en fait c'est ça. En fait c'est ça la France. C'est la cantina de Star Wars en fait. C'est-à-dire tu croises tout et n'importe quoi si tu veux. Parce que quand un mec se met à parler en clando, finalement c'est comme si t'entendais. Paris c'est une immense soupe aux choux en fait. Oh putain, je suis parti en couille. Oh. Ouais, je me disais, donc à l'époque, excusez-moi, je me disais, putain, j'envoyais, je faisais des boulots ingrats et tout, et puis j'avais un bon niveau d'études, mais je voulais pas être au chômage comme un fils de pute, parce qu'en fait, l'estime de soi, c'est important, d'accord ? Donc, si vous voulez, j'allais au boulot, je me cognais dans les pires boulots et tout, la sécu avec les mecs qui te parlent mal, les mecs qui font les fous parce qu'ils savent que t'as un uniforme, tu peux pas faire n'importe quoi, alors que si t'en étais à l'époque des croisades, tu lui fendrais le crâne et tout, tu sais. Bref, à te faire insulter par des mecs, des gamins de 40 kilos, tu pourrais les étrangler et tu le fais pas parce qu'après ta vie elle bascule. T'sais. Enfin bref, donc si vous voulez, très 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 compliqué. Je me suis foutu sur internet, beaucoup de coups. Et en fait, tu prends, putain. Mais en fait, je suis désolé, mais Stallone c'est un génie parce qu'il le dit. Il nous prévient, dans Rocky, il nous dit « Rien ne tape aussi fort que la vie. » Et c'est pas taper fort, c'est pas cogner fort qui compte. C'est d'encaisser et d'y retourner. Je crois qu'il dit un truc comme ça, mais c'est vrai. Mais il a raison. C'est d'encaisser et d'y retourner. Encaisser et y retourner, putain. Mais c'est vrai, c'est con. Là, je vais passer pour un blaireau à citer des trucs de blockbuster des années 80-90. Mais putain, c'était des philosophies géniales. Des philosophies de vie, pardon, géniales. Encaisser, y retourner. Mais oui, Stallone, oui, t'as beau avoir la bouche tordue, avoir été représenté complètement abruti dans les guignols de l'info, mais en fait, tu dis vrai. Tu dis vrai. Oui, c'est vrai que rien ne tape plus fort que la vie. Et ce qui compte, c'est pas de la taper fort à ton tour, c'est de la taper fort et d'encaisser et d'y retourner. Tu vois, c'est, voilà. Et c'est dur. Et moi, il y a des fois où j'ai été dans des états de désespoir terrible, mais je me suis accroché. Et d'ailleurs, c'est là où la foi est importante. Quand on me demande mais à quoi ça sert la foi, mais à quoi ça sert d'être chrétien, est-ce que ça va sauver la France ? Je ne sais pas si être chrétien va sauver la France. Mais ce que je suis sûr, c'est qu'être chrétien va te sauver à toi. Parce que tu auras toujours quelque chose à quoi te raccrocher. Tu sais que tu n'es pas tout seul. Tu sais qu'il y a quelqu'un qui voit ton mérite. Il y a quelqu'un qui voit comme tu te casses le cul. Et ce quelqu'un-là, c'est Dieu. Et il fera toujours en sorte que tu sois récompensé pour ce que tu as fait. Toujours. Dieu, il est très très juste. Même si ça prend beaucoup de temps, tu auras une consécration à la hauteur du travail que tu as fourni. Et c'est pour ça que c'est merveilleux le cadeau que vous m'avez fait. Vraiment, je vous le dis pas assez. C'est très très beau de voir ça parce que il y a quelques-uns d'entre vous à qui je parle de temps en temps comme ça parce que j'ai beaucoup de messages sur Instagram donc je peux pas répondre. Donc il y en a qui je parle une fois et je leur reparle au bout de 6 mois, d'autres un an, d'autres 2 mois. Ça dépend parce qu'en fait c'est au gré des messages auxquels je réponds. Et je me dis putain, j'en ai quelques-uns en tête, mais vous avez été beaucoup là, vous avez été beaucoup à participer, ça veut dire que vous écoutez les podcasts, ça veut dire que vous m'entendez quand je vous dis que les podcasts, ben j'ai besoin d'être rétribué pour que ça continue, que j'ai pas l'impression de le faire pour rien, vous voyez, parce que c'est du don, et quand vous me renvoyez la balle, même si c'est une petite partie d'entre vous, parce que 7 millions d'écoutes, j'ai pas vendu 7 millions de BD, hein, faut pas déconner, même si c'est une petite partie de vous, c'est quand même une grosse partie, c'est super. Et c'est super. Et je suis vraiment très, 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 très content. Enfin, en tout cas, par rapport aux autres gens qui vendent des BD et par rapport aux autres gens qui sont subventionnés, qui vont être mis en avant par, je sais pas moi, la télé, ce que vous voulez, qui vont être invités, ben, ils vendent pas autant. Voilà, on leur passe devant. Même des youtubeurs très, très connus, ben, leur BD, elle fait moins bien que nous parce que, putain, déjà, on s'arrache pour faire des trucs bien. Et puis surtout parce que au fil du temps, il y a de la loyauté. On vous a jamais déçu. Vous voyez, l'année dernière, je n'ai rien sorti. Parce que je n'avais pas d'idée, j'avais pas un truc génial en tête, donc je n'ai rien sorti. Donc ça m'a fait un trou dans le budget, parce que c'est comme ça que je vis. Hein. Moi, mes vidéos YouTube, elles sont pas monétisées. De toute façon, ma chaîne a sauté. Donc en fait, ce qui me fait vivre, c'est les BD. C'est les BD. Voilà. Et de temps en temps, quand par exemple, je fais une vidéo qui est sponsorisée, effectivement, Je vais avoir Terre de France qui va me sponsoriser, mais c'est pas à la hauteur de ce que je gagne avec les BD, très 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 loin de là, très très loin de là. Donc si vous voulez, la vente d'une BD me fait le salaire pour l'année. L'année dernière, j'avais pas d'idée, et ben j'ai pas sorti un truc, j'ai rien sorti. L'été dernier, il y a pas eu de sortie, il y a pas eu de sortie bouquin. Voilà, le dernier bouquin, c'était Expérience de mort imminente. Oui, ça, Expérience de mort imminente, je crois le dernier. Il y a pas eu de bouquin comme Crépuscule des Titans ou Expédition punitive. Voilà. Donc si vous voulez, quand j'ai pas d'inspiration, que je me dis je peux pas leur sortir un truc génial, eh ben je le fais pas. Je ne le fais tout simplement pas, voyez. Donc si vous voulez, c'est ce que comprennent pas aussi plein de gens, c'est qu'en fait il y en a, ils sont là pour faire des hold-up, ils voient pas à long terme, et ils sont omnibulés par l'argent, et c'est pas tout l'argent, c'est pas tout. Si vous voulez, l'argent c'est le moyen d'acquérir de la liberté, de faire des trucs stylés. Moi, l'argent me sert à ne pas avoir à travailler à côté pour pouvoir vivre de ma passion qui est de faire des BD et d'écrire des bouquins et de faire des vidéos. Vous voyez ce que je veux dire? Ça sert pas à avoir beaucoup d'argent sur le compte. Ce qui compte, c'est que l'argent que je vais recevoir me permet d'exercer ma passion. Et j'ai des copains comme ça qui vivent de cette manière-là. L'argent leur sert à avoir une vie où ils vont être là où ils ont envie de vivre et à faire ce qu'ils veulent. Voilà. Courir après l'argent pour l'argent, se dire « Ah putain, j'ai gagné ça !» alors que tu as une vie de décérébré, tu es prêt à vendre n'importe quoi pour ramener des gens, mais c'est une catastrophe, quoi. Ouais, c'est une catastrophe. Parce qu'en fait, tu te tords là, mais et tôt ou tard, d'ailleurs, Dieu te met des... Soit il te fait crever d'un cancer, soit il te fait arriver des catastrophes, hein, soit il te retire ça parce que tu t'es en train de te faire du mal. Et t'es en train de faire du mal aux gens. Quand tu regardais certains youtubeurs qui sont tombés pour des histoires de cul et tout ça, c'était sans doute des mecs qui n'avaient plus plaisir à faire ce qu'ils faisaient. Ils le faisaient pour la thune. Et en fait, inconsciemment, tu finis par produire les choses qui vont précipiter ta chute. Tu finis par produire tu finis par produire les choses qui vont finalement acter ce que tu arrivais pas à te formuler à toi-même, qui est que tu supportais plus ta vie. Voilà. Il y a plein de streamers comme ça qui pètent des câbles et qui vont faire l'erreur de trop, parce qu'en fait, ils sont pas en train de faire ce qu'ils ont envie de faire. Et si vous voulez, moi, artistiquement, on m'a déjà proposé... Par exemple, je vous dis un truc. On m'a proposé une grosse somme d'argent pour aller dans une radio connue et une somme mensuelle. Donc, je serais allé sur cette radio, j'aurais fait du commentaire. Donc ça m'aurait... parce que quand vous faites du commentaire, l'actualité vous amène les sujets. Donc vous n'avez plus besoin de vous dépasser. Vous n'avez plus besoin d'avoir un univers, une personnalité. Il vous suffit de commenter, donner votre avis, voilà. Les Arabes, c'est pas bien. Ah oui, le saucisson, c'est génial, voilà. Et en fait, vous avez toute une droite qui tient comme ça. Hein. Vous avez toute une droite qui tient comme ça, en étant invité dans des émissions qui bident, dire il y en a marre des Arabes, il y en a marre des Noirs, il y en a marre des Juifs, voilà. C'est ça, vous voyez. Et après, vous avez des gens qui ont une vision et qui ont une capacité de création et qui sont pas dans le commentaire. Et ceux-là, si vous voulez, c'est ingrat de les traiter pareil parce que eux n'ont pas l'actualité qui nourrissent leur travail. Moi, mon travail, McBurney, c'est pas l'actualité. Il a fallu que je l'invente avec mes références, avec les films que j'avais vus. Les personnages qui gravitent autour de lui, il a fallu que je sois original. Moi, j'ai lu un nombre de BD incalculable. J'ai vu un très très grand nombre de films. Donc, j'essaie d'imiter personne. Je m'inspire évidemment, mais il faut pas que j'imite. Parce que si j'imite, je serai épinglé. Tôt ou tard, on me dira, attends, là, tu tires parti du travail qui a été fait à un autre. Non. Je peux faire des hommages. Par exemple, dans ma BD, il y a un hommage à une scène précise de Predator, où il y a le héros qui jette un couteau dans la gorge d'un dinosaure en disant, aiguise-moi ça. Ouais, mais sauf que dans Predator, donc ça, c'est un hommage assumé. Enfin, vraiment, on a dessiné pour qu'on comprenne que c'est un hommage à Predator. Mais si vous voulez, c'est avec un dinosaure dans une histoire. Là, c'est pas avec un Mexicain dans la jungle. Donc, c'est un hommage, mais avec par-dessus un univers qui m'est propre et que j'ai articulé pour pouvoir mettre cette référence et non pas une copie. C'est-à-dire que j'ai pas fait une BD sur un mec qui est envoyé dans la jungle pour récupérer ses potes et il est poursuivi par un extraterrestre. Ça s'appelle du plagiat, en fait. Voilà. Donc, c'est ce que je veux vous dire. Et si vous voulez faire quelque chose qui n'est pas de la copie, qui n'est pas de l'actualité, qui vient de vous-même, en réalité, il y a très très peu de gens qui peuvent le faire. Et c'est ce que ne comprennent pas les mecs qui essaient de me faire bouger sur mes bases. C'est qu'en fait, non, il y a vraiment beaucoup de travail. Là, j'ai pris un an pour la faire, cette BD. C'est-à-dire que j'en ai parlé pendant un podcast. Après, il y a eu un an de travail. Donc, 2 ou 3 mois pour moi, et puis le reste pour le dessinateur qui fait évidemment le boulot le plus difficile, qui est la mise en page, le découpage et tout ça. Mais si vous voulez, les dialogues, les situations, c'est moi. Puis après, il faut que j'aille voir les crayonnés chez Marceau, parce qu'en fait, on regarde les crayonnés, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas. Lui, il va me dire, tu vois, là, par exemple, ce passage, ben, ça serait bien de l'orienter différemment ou de le couper. C'est ça, en fait. C'est de l'artisanat. On est dans la tradition de l'artisanat. C'est-à-dire, je produis pas quelque chose d'industriel comme du commentaire, je produis quelque chose d'unique, et l'année prochaine, je pourrai pas faire quelque chose de pareil. Il faudra que je fasse une autre histoire avec un nouveau truc. Soit je fais Dino Brutal Age 2 avec une nouvelle histoire, soit je fais complètement autre chose. D'ailleurs, je crois que l'année prochaine, on est en train de se dépêcher pour pouvoir sortir l'autre projet qui fait, tenez-vous bien, 220 pages. Là, j'ai 189 pages écrites, donc on avance. Donc là, pour la rentrée prochaine, normalement, on devrait arriver à 220-230 pages. Donc ça y est, il sera fini. Donc normalement, la rentrée prochaine, vous avez la BD sur laquelle je travaille depuis presque 9 ans, au niveau du moment où j'y ai pensé. Mais à partir du moment où je me suis mis à travailler dessus avec mon dessinateur, c'est en 2018. Donc ça fait 2018, ça fait 6 ans. Et je l'ai imaginé il y a 8-9 ans. Vous voyez le truc ? Voilà, et comme je vous avais expliqué, je ne l'ai pas sorti en plusieurs parties, je veux que vous ayez un bloc, une BD, même si ça me rapporterait plus d'argent, c'est toujours pareil, c'est pour ça que je ne supporte pas ces accusations de « oui, tu cours après l'argent », parce que si j'avais voulu, si c'était le pognon qui avait guidé ma vie, je ne serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Je ne ferais pas ce que je fais. Je n'aurais pas fait les sacrifices que j'ai fait, et je serais dans des situations beaucoup plus confortables, j'aurais soigneusement mis mes idées de côté, j'aurais fait de l'humour, j'aurais fait des trucs qui auraient plu à tout le monde, je me serais bien lissé, j'aurais touché un beaucoup plus large public parce que j'aurais été beaucoup plus mainstream, j'aurais été invitable, j'aurais continué à punchliner sans mettre des trucs de droite dedans, mais j'ai pas choisi ça. Et le fait que vous reconnaissiez ça, que vous ayez la gentillesse et l'honneur et la dignité de me rendre à moi aussi mon honneur et ma dignité en venant me dire on est conscient de ce que tu fais, des choix que tu as fait, et on vient de manière partisane te rétribuer, c'est merveilleux. Voilà, c'est pour ça que je vous le dis encore une fois, merci, parce que tout ça c'est grâce à vous. Voilà, je suis désolé, ce podcast il est un peu plus long, mais je suis parti dans tous les sens parce qu'il y a aussi, il faut dire, l'émotion qui se traduit parce que je suis content et j'arrive pas à redonner mes idées. J'ai envie que vous compreniez, que je vous remercie. J'ai envie que vous compreniez que pour moi, ce sont des checkpoints, ça. Ça montre à tous les fils de pute, de merde, de jaloux que j'ai sur les côtes que non, en fait. Malgré toute l'énergie qu'ils mettent à me descendre, putain, vous faites la différence entre les informations qu'ils donnent et la réalité. Et ça, c'est merveilleux. Et ils y peuvent rien. Et Dieu sait qu'ils s'acharnent. Dieu sait qu'ils s'acharnent. Et ça, mais quel régal. Parce que je sais qu'ils sont en PLS, quoi. Ils suivent pied à pied tout ce que je fais. Et ils n'en parlent pas, ils ne commentent que ce que ils pourraient penser que voilà, ils sont en mode on va parler que des potentiels sauces, hein, mais il y a pas de sauce, fils de pute, il y a pas de sauce en fait, parce que je suis resté droit dans mes bottes depuis toujours. Voilà, depuis toujours. Et d'ailleurs, je m'adresse à la personne que j'ai un peu sur les côtes là. Tu sais que j'ai une vidéo de toi où tu es en train de draguer des gamines qui n'ont pas encore 15 ans, c'est du détournement de mineurs où tu expliques que tu vas avoir une relation sexuelle avec ces gamines. J'ai cette vidéo, je l'ai, elle est là. Donc fais attention. Parce que je veux pas te donner de la force, je veux pas me salir à parler de toi, parce qu'il y a ça aussi, c'est qu'en fait, on est... Moi, je veux pas me salir, parce qu'il y a des gens, vous en parlez, ça vous salit. Il y a des types, vous en parlez, ça vous salit, parce que ce sont des mecs, ce sont des nuls, ils ont des idéologies de merde, ils sont mauvais, et en fait, juste d'avoir un conflit avec eux, ça vous rattache à eux. Vous voyez, même si vous les détestez, ça vous rattache à eux. Et c'est vraiment le dilemme que j'ai, c'est que ce sont des gens que je pourrais détruire. Lui, typiquement, j'ai une vidéo de lui où il est en train d'expliquer qu'il veut baiser 2 mineurs qui ont... elles sont en face de lui. Hein. Et tout est enregistré, c'est en vidéo, il y a le son, il n'y a pas de problème. En plus, j'ai obtenu l'extrait légalement. C'est un de ses collaborateurs qui me l'a donné, légalement, et un collaborateur à lui qui a la possibilité de me le donner, qui a le droit légal de me le donner. Donc j'ai cet extrait, je pourrais le diffuser. Et si vous voulez, je ne le fais pas parce que je ne veux pas être assimilé. Je ne veux pas qu'il y ait une énième polémique qui m'assimile à un tocard. Mais j'ai cette vidéo. Vous imaginez à quel point il faut lutter contre soi-même et contre ces esprits de vengeance primaire. Et c'est des gens qui ont beaucoup de chance que je sois catholique. Ils ont beaucoup de chance que je crois en Dieu parce que j'estime que la paix et la démonstration par le positif valent mieux que l'attaque et l'invective. Mais vous imaginez la bombe nucléaire que j'ai contre ces mecs. Vous imaginez la violence du truc. Lâcher une vidéo où on voit clairement le type en train de draguer des mineurs. Donc c'est du détournement de mineurs. C'est pas moins de 18, c'est moins de 15. Donc ça rentre dans la pédophilie, si vous voulez. Vous voyez un peu la violence du truc ? Parce qu'en dessous de 15 ans, c'est ça. Hein. Quand tu as plus de 35 ans, hein, entre 35 et 55, je vais pas donner son âge pour pas qu'on le reconnaisse, et que tu te mets à expliquer que tu as envie de baiser des gamines qui ont moins de 15 ans, ça s'appelle la pédophilie en fait. Même si toi tu le vois pas comme ça, ça s'appelle la pédophilie. Donc imaginez ses fins de carrière. Sauf que c'est un type qui a une famille. Voilà, donc si vous voulez, il y a des dégâts collatéraux après. Voilà. Donc, par esprit chrétien, je vais le laisser encore me cracher dessus et le laisser exercer sa frustration. Parce que si je lui mets une bombe atomique, non seulement je vais être lié à lui à vie avec l'ampleur du scandale, mais en plus, j'ai pas envie d'entrer un truc comme ça. Je préfère 100 fois me venger de ces types-là en ayant des énormes succès qu'en faisant des trucs pareils. Parce que je suis pas comme ça. Je suis pas comme ça. J'ai pas envie de que ça finisse comme ça, vous voyez ce que je veux dire ? C'est horrible, voilà. Puis en plus, c'est un type qui bluffe complètement. Il me dit, oui, j'ai des audios de toi, gnagnagna. Il a rien du tout. Et même s'il avait des audios, j'assume absolument tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai dit au sein de ma carrière. Vous m'avez jamais vu m'excuser en disant de YouTube. Voilà, je change d'avis et je dis quand je change d'avis. Mais j'ai toujours été responsable de ce que je disais. Et il n'y a rien pour moi qui puisse me faire vaciller. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est par esprit chrétien que je me garde de rentrer un truc comme ça. Et le fait que vous m'épargniez ça en venant valider mon travail, c'est merveilleux. Voilà. Je vais arrêter de vous gonfler avec ça. C'était pour vous dire à quel point je vous suis reconnaissant. Merci pour tout. 7 millions d'écoutes sur le podcast. La BD qui marche du feu de Dieu. Je clôt le chapitre. Merci vraiment à vous tous. C'est vous qui avez rendu ça possible. Merci de tout cœur. Eh bien écoutez, 1h15 quand même, 1h15 de podcast. Le dernier avec Benoît Saint-Denis a beaucoup fonctionné parce que ben, l'extrait a été publié sur X, je ne sais plus combien de millions de vues. Encore une PLS pour mes détracteurs. Donc je ne sais plus combien de millions de vues et du coup, voilà. Donc ça a fait que le dernier podcast a été écouté, mais vraiment de manière exponentielle. Donc voilà, moi ce que je conseille de faire, voilà, parce que je voulais finir sur un truc positif parce que j'ai été très très dur avec Benoît Saint-Denis, d'ailleurs à tel point que sa compagne a communiqué. Moi je pense que, et c'est ça qu'il y a de très très beau dans le pardon chrétien, moi je pense que Benoît Saint-Denis, il doit faire amende honorable, il doit se professionnaliser, il doit respecter son sponsor et arrêter de faire des trucs amateurs. Il doit aller dans une vraie salle avec un vrai entraîneur, il doit présenter ses excuses à Daniel Warren. Moi je suis sûr, Daniel Warren a dit c'est fini dans la fine équipe, il a dit c'est fini. Et on peut comprendre hein, quand t'as été trahi comme ça alors que t'as créé un mec, je peux comprendre. Mais vu la gentillesse du mec, vu le l'âme profondément gentille qu'a ce type, hein, je suis persuadé que si Benoît Saint-Denis fait de vraies excuses publiques en disant voilà, je me suis gouré, j'ai fait de la merde, j'ai lâché mon entraîneur historique, je te présente mes excuses, j'ai fait une erreur, je l'ai payé. Réentraîne-moi, faisons le truc sérieusement, allons dans une vraie salle. Maintenant, je me professionnalise, je suis persuadé et je serai le premier à être heureux. Je suis le premier à dire, eh ben vous voyez, j'ai été très dur dans le podcast avec Benoît Saint-Denis, mais finalement, il est à son meilleur niveau, il est de retour parce que je pense que c'est un type qui en a sous le capot. Il a fait beaucoup d'erreurs, il a fait de la merde, il s'est parjuré. D'une certaine manière, il a trahi parce que bon, sa gonzesse, elle a dit oui, Libération nous a manipulés. Tu pouvais aller faire ton communiqué chez Le Figaro en fait. T'étais pas obligé de le faire chez Libération. Voilà, t'as choisi Libération en âme et conscience parce que Libération c'est un journal de gauche. Tu t'es dit, on va aller dire qu'on est contre la droite dans un journal de gauche et on va avoir un blanc-seing. Les appels au président de la République, le fait de se montrer avec un antifa, non en fait. Ça, vous n'étiez pas obligé de le faire, il n'y avait rien que vous étiez obligé à le faire. Donc voilà, faut pas non plus. Voilà, il y a des choix qui ont été faits. Faut, moi, les excuses, c'est pas infamant. Dire excusez-nous, on a fait de la merde, c'est pas infamant. Hein. C'est pas se soumettre. Moi, je me suis excusé à plusieurs reprises. Hein. Moi, je me suis excusé après les présidentielles. J'ai dit écoutez, je vous ai appelé à voter alors que je me rends compte par analyse personnelle que le vote ne sert à rien et que je vous ai proposé une solution qui n'en était pas une. J'ai formé des excuses à plusieurs reprises. Hein. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, si vous voulez, il n'y a rien d'infamant à s'excuser. Ça demande même du courage de s'excuser. Et il y a une forme de virilité dans l'excuse. Vous comprenez ce que je voulais dire ? C'est très, très important. En fait, il faut assumer ce qu'on a dit. Il faut être capable d'assumer ce qu'on a dit, de donner une explication rationnelle. Il y a des gens, ils n'assument pas ce qu'ils ont dit. Ils coupent des extraits ou ils ne veulent pas qu'on parle de certaines choses. Non, moi, vous pouvez me présenter n'importe quel extrait, n'importe quel audio, n'importe quel acte que j'ai fait. Je vous dirai pourquoi, à cette époque-là, je pensais comme ça, pourquoi c'était une erreur. Il n'y a aucun problème. On est des êtres humains. Et c'est même inquiétant quand quelqu'un vous dit « Moi, je commets jamais d'erreur. » Fuyez cette personne. fuyez cette personne. Voilà. Moi, j'ai commis des erreurs et évidemment, j'ai été toujours capable de les analyser, d'en tirer des conclusions et de faire mes excuses vis-à-vis de ça. Donc, ce que je vous dis, absolument, c'est de vraiment être en capacité de formuler des excuses sincères, c'est super important et ça vous regalvanise. Imaginez Benoît Saint-Denis qui retourne auprès de Daniel Warren. Le Raptor réinjectera ce qu'il a injecté pour la préparation, parce que vous savez que le Raptor a donné énormément d'argent pour la préparation du combat contre Dustin Poirier. Cet argent a été très très mal employé. Pour moi, personnellement, je pense qu'il y a eu un manque de respect vis-à-vis de la somme qui a été engagée par rapport au sérieux qui a été démontré. Voilà. Et ça, c'est une faute. C'est pas grave, il faut se reprendre, il faut se professionnaliser, s'entourer de personnes compétentes. Je crois qu'en plus, il a été invité par Moïcano à s'entraîner à la Team USA. C'est parti, quoi. C'est parti. Et tu fais une interview, tu dis, j'ai merdé à valider Macron, qui tire des flashballs dans la gueule des paysans français, qui est en train de vendre le pays. C'est une merde. D'accord, Macron, c'est une merde. Et tu peux pas pactiser à lui et dire derrière la France. Non. Non, Macron et la France, c'est deux choses différentes. Macron, il n'est pas au service de la France. Hein. Macron, il est au service à la limite de la République, mais surtout du mondialisme. Hein. Voilà. La bête de l'événement, si tu es chrétien, tu ne peux pas aller valider la bête de l'événement. Voilà. Donc, si vous voulez, à un moment, faut redevenir sérieux. Benoît Saint-Denis, il s'excuse, il fait amende honorable, il retourne auprès de Daniel Warren. Je suis persuadé que s'il s'excuse... Moi, je connais pas Daniel Warren, pas du tout. Hein. Mais je vois que c'est un bon gars. Je suis persuadé que s'il y a vraiment des excuses profondes et tout, qu'il y a du respect, qu'on redéfinit bien les termes financiers, il peut y avoir quelque chose de magnifique. Ça serait une super histoire. En plus, même pour Benoît Saint-Denis, ça serait une super histoire. Il ferait fermer sa gueule à tout le monde. Là, les gens, il y a plein de gens qui ont commenté contre Benoît Saint-Denis, pas par rapport à ce qu'il avait fait chez Libération ou parce qu'il s'était rapproché d'Antifa et validé Antifa. Non, non. Parce que oui, il a dit que il a fait des pronostics où il a dit il y a personne qui fait 3x3 contre moi. Ouais, mais en fait, y en a plein d'autres des combattants qui font des pronostics, et même Tyson a fait des pronostics et il a pris des branlées contre Buster Douglas, et pourtant c'est le meilleur. Donc ça n'empêche pas que Benoît Saint-Denis a un très très bon niveau, mais ça demande du travail, ça demande de l'investissement, ça demande de travailler à l'américaine, d'arrêter d'être avec des régis qui te tiennent les pas hauts à Bayonne en fait. Puis déjà, il va falloir foutre un chauffage dans le gymnase, parce qu'il n'y a pas de chauffage dans le gymnase en fait. Donc il y a un énorme problème. Voilà, donc il va falloir arrêter de faire le gitan, et il va falloir se... Et moi, je vous dis, je rêve que Benoît Saint-Denis soit suffisamment intelligent pour comprendre qu'il a joué contre lui-même. Voilà, là, l'interview qu'il a fait chez Click, c'est une catastrophe. On dirait qu'il a rien compris. Mais non, c'est pas ton game plan qui a foiré, je sais pas quoi. Ce qui a foiré, c'est que t'as été mal préparé par des mecs qui étaient incompétents et qui t'ont conseillé des trucs de... Je suis désolé, moi, en boxe amateur, j'avais de meilleurs conseils de mon coin. Bon, faut dire que mon entraîneur a entraîné des boxeurs qui étaient au niveau top 3 mondial WBC, hein, donc c'est normal. Mais même dans les galas amateurs où t'as des entraîneurs qui sont pas des entraîneurs qui ont entraîné des boxeurs à très très haut niveau, d'accord, ils donnent des conseils meilleurs que « c'est ton moment, Benoît, c'est ton moment ». Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que cette école de SECPA, là? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est ton moment. L'autre, il a passé je sais pas combien de temps à regarder des vidéos. Putain, Tyson, il passait des matinées entières avec Cus D'Amato à se repasser sur des vieilles bobines, sur des VHS, pardon, des vieilles bobines copiées, des combats de Rocky Marciano, de Joey Lewis, de Jerzy Joe Walcott, putain, les types, de Cinderella Man, James G. Braddock. Putain, mais les mecs, ils allaient chercher dans des vidéos de vieux combattants des extraits avec des trucs et tout. Regarde là, Jack Johnson, le pas de retrait, il change de garde et il envoie un bras arrière en même temps. Donc, comme ça, il est couvert par le bras avant et tout. Des micro-gestes techniques. Et il passait une matinée à se le repasser, à le travailler ensuite l'après-midi. Enfin, si vous voulez, Tyson, il avait un coach physique. Hein. Il avait un coach spécifique pour les sparring qui était Cus D'Amato. Il avait un mec qui lui faisait le cardio spécifiquement, enfin il était avec une équipe. C'est ça en fait, se professionnaliser. C'est pas aller au gymnase avec Régis et son trousseau de clés qui te tient les pas hauts. Voilà. À un moment, il faut faire des sacrifices. C'est ce que disait Cyril Diabaté dans La Fine Équipe, là, sur la chaîne Gong. Il disait, les grands combattants sont capables de grands sacrifices. À un moment, il faut laisser ta famille. Si tu veux, si ta gonzesse, elle met des PV, tu la prends pas comme manager en fait. Tu la laisses faire son métier, c'est à mettre des PV. Voilà. Je suis un peu méchant, mais c'est ça, en fait, si tu veux. Donc, voilà, à un moment, il faut reprendre les choses dès le début. En plus, il y a des gens qui lui veulent du bien. Son manager, Guillaume Pelletier, moi, je pense que c'est quelqu'un qui lui veut du bien. Bon, c'est quelqu'un qui a contribué aussi à l'amener là. Voilà. Donc, maintenant, il faut aussi que l'athlète se réveille. Et j'espère que Benoît Saint-Denis va faire main honorable et que le prochain podcast que je ferai, c'est putain le retour du chevalier. On a tous été des aubergines. Vous savez, dans le dernier podcast, j'ai dit il est passé de chevalier à aubergine parce qu'à la fin, ben, en fait, à la fin, il s'est retrouvé à prendre deux branlées après avoir fricoté avec Libération, validé l'antifa 7 Gecko et expliqué qu'il était pote avec Macron. Bon, ben Dieu, il t'a mis là où tu devais être, c'est-à-dire dans le caniveau, parce que tu as allé te rapprocher du caniveau. Tu représentais Saint-Denis, tu représentais tout ce qu'il y avait de bien, tu allais mettre dans le caniveau, donc il t'a mis dans le caniveau. Mais on est chrétien, et la grande chance de la religion chrétienne, c'est que tu demandes pardon, tu fais amende honorable, et Dieu va te donner 10 fois plus de force que tu en avais avant ta chute. Le seul moyen pour Benoît Saint-Denis de revenir d'accomplir son rêve, qui est de revenir dans le top 5, et qui sait peut-être un jour dans le top 3, c'est de se professionnaliser à outrance, de travailler les trucs qu'il doit travailler, et de revenir dans le droit chemin et d'arrêter de donner de la validation aux envoyés du diable que sont Macron et les Antifa, en fait. Voilà, surtout si tu te réclames du catholicisme. Voilà. Et comme je vous disais, moi aussi j'ai fait de la merde. Moi aussi, il y a des moments de ma vie où j'étais pitoyable. Mais je me le suis jamais pardonné et j'ai tout fait pour me le faire oublier. Et donc, en fait, pour produire quelque chose qui contrebalance. Et c'est ça que doit comprendre Melon Saint-Denis, en fait. C'est que là, demain, il veut fermer la gueule à tous les gens qui l'ont critiqué, moi y compris. Eh ben, il change tout ce qu'il faut changer, il revient et il nous refile du rêve, et il nous refait rêver. Et c'est ce que je te demande, Benoît, si tu écoutes ce podcast, parce que je sais qu'il les écoute, parce que évidemment, ben, l'autre a eu beaucoup de succès, ça a dû être très douloureux pour eux de les écouter. Mais la note positive, c'est que s'il fait les bons choix, mais putain, ses sponsors vont se resolidariser autour de lui. D'ailleurs, il a pas queué le Raptor, il y a eu une défaite, il a dit on continue à sponsoriser. Hein. Je veux dire, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui auraient pris leur jambe, leur cou. Donc, il est accompagné par des gens qui sont loyaux. Plus que lui-même. Plus que lui ne l'a été. Et ça, c'est une chance très rare dans la vie. Très, très rare. Donc, j'espère vraiment de tout cœur qu'il va entendre ce que je lui dis et qu'il va remédier à tous les mauvais choix qu'il a fait et se remettre en selle et nous refaire rêver. Et nous refaire rêver parce que moi, c'est un mec qui m'a fait rêver. J'ai fait un podcast pour le sacraliser pratiquement, à tel point qu'il nous faisait rêver. Voilà. Donc j'espère que je referai un podcast pour dire « il est de retour ». Alors là, je viens de dire « t'as tourné ta veste ». D'ailleurs, là, quand j'ai fait le podcast, c'est pas moi qui ai retourné ma veste. Il y a plein de gens qui m'ont dit « ah, mais tu retournes ta veste, t'as fait la promotion de Benoît Saint-Denis, et maintenant qu'il a perdu ». Déjà, il faut savoir un truc, c'est que j'ai enregistré une vidéo chez Europe qui va sortir bientôt là, où je commençais déjà à expliquer ce phénomène où il m'avait lâché, et c'était bien avant sa défaite contre Moïcano. Et d'ailleurs, il a arrêté de me suivre et de me répondre après la victoire contre Matrevola. Donc, si vous voulez, c'était déjà... même quand il n'avait pas encore perdu, il y avait déjà le... C'est déjà lui qui me parlait plus. Donc, c'est pas moi qui retourne ma veste vis-à-vis de lui. C'est lui qui m'a unfollow, qui a arrêté de me parler et qui allait fricoter avec l'extrême gauche. Donc si moi je viens après pour sanctionner tout ça, c'est pas moi qui retourne ma veste. Moi je ne fais que constater les changements qui ont été opérés. Voilà. Donc si vous voulez, il faut pas inverser les rôles et faire de l'inversion accusatoire. Excusez-moi, je suis fatigué. Donc voilà. Donc reviens-nous en forme, Benoît, s'il te plaît. Fais les changements qui s'imposent et ferme la gueule à tout le monde, la mienne y compris. La mienne y compris, mec. La mienne y compris. Et je serai le premier à te redonner de la force. Mais arrête de queuquer. Arrête de queuquer, t'es catholique, t'es français, les fans de Doumbé, ce seront jamais tes copains, les femmes d'Islam Makhachev et de Nurmagomedov, ce seront jamais tes copains, Macron, est-ce qu'il est venu te voir après ta défaite pour te dire, eh, c'est pas grave, non, là tu lui sers plus à rien, voilà, tu lui servais quand t'avais du succès, si demain Teddy Riner, il se casse la jambe et ça y est, c'est fini, Macron, il va plus le calculer. Donc arrête d'être le préservatif de ces mecs-là dans lequel ils giclent et ils se font du bien et qu'ils jettent à la poubelle. Et sois, s'il te plaît, représentant des seuls gens qui t'ont aimé gratuitement et sans aucun intérêt, qui sont en fait tes admirateurs du peuple français par rapport à ce que tu représentes. Voilà. Parce qu'à la base, tu as ça en toi, t'es un chevalier, t'es un mec qui a des couilles, t'es un mec qui va de l'avant. S'il te plaît, professionnalise-toi. Écoute ce que te disent les gens qui n'ont aucun intérêt à te le dire, parce qu'il y a plein de gens qui vont te sucer la bite parce que tu les fais bouffer, d'accord ? Voilà. J'espère que ça sera entendu. Les amis, désolé pour ce podcast complètement chaotique, très très long. La cantina de Star Wars, les lesbiennes, les merci, salut des transsexuels du canal de Toulouse. On est passé par toutes les phases, tous les thèmes. Je suis vraiment désolé. Je voulais un peu vous remercier pour la BD, puis en même temps je voulais parler de trucs et tout. Bon, podcast très très bordélique, mais podcast tout de même enregistré. Voilà les amis, prenez soin de vous. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt, merci de m'avoir suivi, si vous voulez continuer à nous soutenir et à nous maintenir numéro 1 sur Amazon, bon je pense qu'on sera déjà baissé lors de l'année parce que quand ça fait plus de 72 heures que t'es numéro 1, c'est plié, parce que le classement change tout le temps, il y a jamais une durée aussi longue, donc merci les amis, continuez à nous appuyer, continuez à nous soutenir, c'est vraiment la meilleure manière de rabattre le caquet de mes ennemis, merci beaucoup à tous. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast, les amis. Voilà. Et aussi, juste dernière chose, des fois, ils ne sortiront pas le dimanche, ils sortiront le lundi matin. Donc, pas d'inquiétude, si jamais vous ne l'avez pas eu le dimanche, vous l'aurez le lundi. C'est juste que des fois, je suis en déplacement, j'ai des problèmes internet ou j'ai les travaux et je peux pas poster le podcast. Voilà, les amis. Donc, si jamais vous me dites... je veux dire, vous inquiétez pas, si vous l'avez pas un dimanche, c'est que vous l'aurez le lendemain matin, voilà. Et ben regardez, c'est magnifique, on va finir à 1h29, 51, 52, je vais couper à pile 1h30 et c'est parfait, merci, à très bientôt, au revoir, merci.